Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe, autrement dit des avocats épanouis. J'ai décidé d'innover aujourd'hui puisque jusqu'à maintenant, j'écrivais mes introductions et ensuite je les lisais et j'ai envie de me lancer dans l'improvisation, la quasi-improvisation parce que je sais quand même à peu près de quoi je veux vous parler. Si jamais vous voulez que je revienne à la lecture, n'hésitez pas à me le dire, si vraiment c'est une catastrophe. Mais voilà, je pense que ça pourrait permettre d'avoir des introductions un petit peu plus vivantes et peut-être un petit peu plus authentiques de ma part. Et je voulais vous dire aujourd'hui que hier, je suis allée à la soirée départ de la profession organisée par le barreau de Paris. Et ce qui m'a frappée, c'est effectivement dans ces témoignages, quand même beaucoup de témoignages de mauvaises conditions d'exercice de la profession, des collaborations vraiment malheureuses, avec très peu de reconnaissance et de valorisation de la personne, des difficultés économiques, des difficultés pour se développer, des relations humaines plus ou moins compliquées, mais avec aussi des histoires quand même terribles qui ont été relatées. Et une sensation, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est que ils n'avaient pas de perspective et surtout une absence de quelque chose qui puisse leur ressembler quelque part. Et une difficulté de se projeter dans le modèle existant qu'ils avaient sous les yeux et de se dire qu'ils pouvaient évoluer là-dedans. Et c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans les avocats encore en exercice qui ont pris la parole pour dire voilà, je me pose des questions parce que en l'occurrence je suis maman, j'ai quand même envie de voir mes enfants, etc. Et je me demande si c'est vraiment compatible avec la profession. Et je veux pas me jeter des fleurs, mais je vais quand même me jeter des fleurs sans mauvais jeu de mots avec le podcast, mais j'espère que avec toutes ces interviews que je fais d'avocats qui s'épanouissent, où il y a des femmes, des hommes, tout type d'exercices différents, j'espère pouvoir vous donner à vous qui exercez aussi une vision de ce qui est possible et de faire, ce qui vous est possible de faire, de peut-être que vous vous retrouviez dans certains parcours et que vous vous disiez « Ah ben ça, peut-être que c'est un modèle dans lequel je me reconnaîtrais, que je pourrais faire aussi. » J'espère aussi vraiment vous donner ces exemples, en fait, que ça vous porte et que ça vous inspire et que ça vous prouve que c'est possible. D'autant plus que, j'essaye de faire en sorte que les invités du podcast ne soient pas que des personnes du Sérail qui étaient vouées à devenir avocat et pour qui les choses allaient être faciles. Et donc, j'espère vraiment que ça vous ouvre les horizons et que vous en tirez la même conclusion que moi, qui est surtout de vous demander quel est l'exercice dont vous rêvez et comment est-ce que vous pourriez arriver à créer cet exercice un peu sur mesure. Et pour ça, je trouve que l'interview d'aujourd'hui, c'est vrai, tombe à pic. C'était pas du tout calculé. Mais c'est vrai qu'elle tombe à pic parce que Maître Sandra Azria, qui est donc mon invitée d'aujourd'hui, c'est vraiment une personne, une femme, qui a mené son exercice avec énormément de liberté. Moi, je trouve ça très vivifiant. Et elle a même arrangé au fur et à mesure de sa carrière sa vie d'avocate. C'est-à-dire que son exercice n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans. C'est une personne qui s'est autorisée à faire des pauses, qui a posé des nouvelles conditions, qui a vraiment vécu avec beaucoup de liberté son exercice. Et j'espère que ça vous inspirera à vous dire que c'est sûrement aussi pour vous possible à adapter en fonction de votre spécialité et de votre clientèle et de voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choix, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renoncer à certaines choses pour en préférer d'autres, etc. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est possible. Moi, c'est un épisode qui m'a beaucoup plu. Sandra a beaucoup d'énergie et je trouve ça très chouette. J'espère qu'elle vous la communiquera et je vous encourage vraiment à mener cette réflexion pour vous parce que peut-être qu'avant de partir de la profession, il y a des choses que vous pouvez essayer de faire. Et c'est pareil, j'ai créé une formation et je vous en parle parce que si je l'ai créée, c'est que je pense que ça manque et que c'est utile. Et d'ailleurs, non seulement je pense que c'est utile, mais je constate que c'est utile parce que les clients que j'ai eus jusqu'à maintenant me le disent et ils me disent que ça leur fait un bien fou d'avoir ce cadre pour réfléchir, d'avoir ces outils qu'ils peuvent implémenter dans leur vie pour que ça se passe mieux au quotidien, pour mieux se positionner, pour mieux communiquer, pour juste voir autrement et potentiellement exercer autrement leur métier, même en faisant des changements subtils. Ou, enfin, voilà. Et je vous invite aussi à vous y intéresser. Là, la session de novembre qui vient, donc novembre 2019, elle est à 360€ et ça inclut une collation, donc c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux 10 heures de présentiel et à tout le contenu que je fournis. Les retours sont quand même extrêmement positifs jusqu'à maintenant et c'est vraiment pensé pour que vous puissiez prendre ce temps pour voilà, faire un pas de côté et vous poser et réfléchir à ce que vous pouvez faire pour gagner en qualité de vie en travail au sein de votre profession d'avocat. Parce que, en fait, profession d'avocat, ça n'est pas synonyme d'une mauvaise qualité de vie au travail. C'est pas une fatalité, en fait. Et vous pouvez améliorer votre situation. Et moi, je vous propose un cadre dans lequel on envisage ça. C'est des petits groupes pour, bien évidemment, que je puisse passer, enfin voilà, parler avec chacun d'entre vous, etc. Aussi pour maintenir une convivialité et une confidentialité. Et je pense que c'est une vraie opportunité que je vous encourage à saisir. J'organise un petit déjeuner mardi prochain, mardi 15 octobre, à deux pas de Saint-Lazare, pour vous présenter ce qu'on fait dans Bien dans ma robe. Et il y aura aussi une de mes clientes de septembre qui sera là pour parler de elle, comment elle a vécu la formation et de ce qu'elle en a retiré. Et voilà, vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit à moi ou à Margot qui a donc suivi la formation en septembre. Il y aura aussi des viennoiseries. Bon, j'espère que vous venez pas pour les viennoiseries, mais... Et bref, je vous dis ça parce que vraiment, cette soirée d'hier, enfin, si je fais ce que je fais depuis un an, c'est parce que vraiment j'y crois. Je pense que c'est possible d'exercer la profession autrement et d'y mettre un peu plus d'entrain et d'enthousiasme et qu'il y a de l'optimisme à injecter dans tout ça. Mais là, après les discussions d'hier soir, ça me semblait encore plus important de vous le redire. Et donc voilà, j'espère vous voir peut-être mardi prochain ou dans la session de septembre, de novembre, pardon. Il reste des places. Et voilà, toutes les informations sont sur le site internet de Fleur d'Avocat. Pour le petit déjeuner, il faut vous inscrire à l'adresse email bonjour@fleurdavocat.fr. Voilà, encore une fois, je vous renvoie au site internet, vous aurez toutes les infos. Et avant de lancer l'épisode, je voulais vous rappeler que la meilleure manière de soutenir le podcast, s'il vous plaît, et qu'il vous fait du bien, c'est d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux sociaux, de laisser un avis sur iTunes, c'est hyper important pour les référencements. Et aussi de me recommander des avocats épanouis à interviewer. Vous êtes peut-être des personnes qui connaissaient des avocats épanouis autour de vous. Et n'hésitez vraiment pas à m'en recommander parce que je les contacte. Il peut se passer un long délai entre le moment où on me recommande quelqu'un et le moment où l'interview est faite et ensuite le moment où elle est diffusée. Mais en tout cas, je prends en compte toutes les recommandations. Et là, par exemple, Sandra Azria, dont je diffuse l'interview aujourd'hui, c'est une avocate qui m'a été recommandée par un auditeur que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui est avocat au barreau. Alors, est-ce qu'il est au barreau de Paris? En tout cas, il est avocat en France et il exerce à Hong Kong. Et voilà, il m'a écrit sur LinkedIn pour me recommander Sandra. Merci beaucoup d'ailleurs, Valentin Morisseau, pour cette recommandation. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'espère que cette introduction improvisée ou semi-improvisée vous a plu ou en tout cas ne vous a pas dérangé. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sandra Azria.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci de l'invitation, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Alors Sandra, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate, ou plutôt avocat, puisque vous m'avez précisé que pour vous c'était avocat.
Alors, le pourquoi, j'en ai pas de souvenir précis, si ce n'est que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. C'est pas ce que j'ai toujours voulu faire. Je voulais initialement être écrivain. Petite fille, c'était ça mon rêve. Mais très très jeune, c'était assez clair en fait. Même si j'arrivais pas à le formuler en termes précis, mais c'était assez clair dans ma tête. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Sur le pourquoi, j'ai beaucoup réfléchi après sur ce qui m'avait motivée. Alors, je pense comme à peu près tous les confrères, un sens aigu de la justice quand même, hein, et de l'injustice en l'occurrence. Et encore plus que ça, petite fille, j'étais beaucoup dans la revendication. Je venais d'une famille où il y avait des grandes différences entre la façon dont on traitait un garçon et une fille, ce qui fait sans doute le lien avec le pourquoi avocat.
Ouais.
Et voilà, ma famille, famille traditionnelle, où la fille avait quand même vocation à se marier, avoir une vie de famille assez classique dans un schéma traditionnel, et du coup avait moins une place à prendre sur comment exprimer ses idées, etc. Et du coup, voilà, moi j'étais dans la revendication et je me battais très très petite. Par exemple, c'est à moi qu'on faisait faire le ménage, pas à mon frère, des choses comme ça. Et donc je disais, mais c'est pas juste, c'est pas parce que je suis une fille. Et j'expliquais, j'argumentais, je débattais. Alors on m'envoyait un peu gentiment balader en disant, oui, bien sûr, mais quand même, tu vas quand même aller faire le ménage et débarrasser. Et du coup, je crois que ça venait de là. Voilà, une poursuite de justice et d'égalité. Et en même temps, je dis que je viens d'une famille, ce qui est vrai, hein, très traditionnelle. Et en même temps, j'ai eu un père qui mettait au-dessus de tout les études et qui, de manière assez troublante, attendait aussi de moi que je fasse des études.
Donc le ménage et les études.
Exactement, absolument, c'était ça. Et donc était très fier que ça se passait bien à l'école, que je fasse des études de droit. Il était vraiment, c'était quelque chose d'assez inouï pour lui qui n'avait pas pu aller à l'école. Donc il m'encourageait vraiment, il mettait en valeur mon intelligence. Donc voilà, donc c'est ce double, voilà, ces deux traits-là de ma vie de famille, je pense, qui m'ont aussi beaucoup orientée dans ce parcours-là.
Donc, vous, après le lycée, vous choisissez assez naturellement les études de droit. Là, écrivain, c'est un peu loin derrière. Vous y pensez plus trop ?
Non, du tout.
Ouais.
Alors, c'est pas que j'y pense plus. En fait, à 13 ans, j'avais commencé à écrire un roman et j'avais lu un autre roman qui, en termes de construction, ressemblait à ce qui m'avait totalement découragée. Je me suis dit, mais jamais de ma vie, je pourrais être écrivain. Je pense que j'avais aussi une forte volonté de réussite sociale. Et que du coup, avocat, ça avait
cette connotation.
Oui, cette entre guillemets, cette garantie, vous savez, le principe de l'école républicaine où on travaille dur, on progresse, on a un bon métier, du coup, on gagne bien sa vie, etc., etc. Je pense que j'avais quand même ça aussi qui était assez ancré, donc j'étais assez réaliste, je crois. Et du coup, avocat, ça me permettait aussi de me construire comme ça. Et du coup, oui, j'ai eu mon bac assez jeune, j'avais 16 ans, et sans aucune question. Plus que ça, enfin, sans aucune formulation d'aucune sorte, je me suis inscrite en droit à SAS. C'était très naturel et je savais que j'allais être avocat, vraiment.
Il y avait cette certitude.
Oui.
Et qu'est-ce que vous aviez en tête comme avocat ?
Alors, à ce stade, parce que j'étais quand même jeune, c'était pas clair à ce moment-là. C'est devenu clair plutôt en licence où j'ai eu mes premiers cours en droit des sociétés. Et là, j'avoue que c'était une révélation. Et alors,
c'est très fou bizarre d'avoir une révélation pour le droit des sociétés.
Je suis d'accord. Et alors, le pire, attendez, parce que c'est quand même assez exotique. On avait eu un cours, dont je me rappelle plus l'intitulé, mais sur l'analyse de bilan. Et j'avais trouvé ça, mais passionnant. Mais vraiment, hein, le passif actif, etc. Et j'avais adoré cette matière, alors que tous mes autres copains me regardaient un peu bizarrement en disant, mais c'est quand même super ennuyeux. Et moi, je trouvais ça passionnant. La vie des affaires, très tôt, me plaisait. Là aussi, je pense que c'est lié à mon histoire familiale. Mon père est un petit commerçant qui avait eu quelques difficultés d'ordre juridique. Et là aussi, je crois que j'avais eu un sentiment d'injustice parce qu'il s'était fait avoir sur son bail. Enfin, il y avait eu quelques péripéties dans son parcours professionnel à cause de ça. Et j'avais très mal vécu le sentiment qu'il n'avait pas accès à toute l'information, qu'il ne savait pas ce que c'était. Enfin, voilà, il était très, très jeune hein, quand il s'est fait avoir là-dessus sur un parcours de sa vie professionnelle. Et du coup, moi, j'avais un espèce de sentiment de revanche, il faut aider les petits. voilà, David contre Goliath. Mais moi, c'était les petits commerçants.
Ouais. Voilà, c'était version droit des sociétés.
Absolument.
Mais cela dit, il y a des petits entrepreneurs et mais, voilà.
Et d'ailleurs, dans mon parcours professionnel aujourd'hui, je les accompagne, c'est ça qui est drôle. Ouais. Et ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. Enfin, ça c'est... Là, aujourd'hui, je peux en parler, mais j'ai mis du temps à comprendre d'où ça venait. Et effectivement, quand j'ai compris, je me suis dit, mais oui, c'est tellement évident. J'essaye d'aider mon père à travers tous ces gens que j'essaye d'accompagner aujourd'hui. Donc, c'était pas le droit pénal, c'était pas les grandes plaidoiries, les choses comme ça qui m'attiraient. Moi, c'était tout de suite le droit des sociétés, enfin, en licence.
Ouais. Donc, vous vous orientez vers du droit des affaires après, dans la poursuite de vos études.
Absolument.
Je suppose, assez naturellement, jusqu'à passer le barreau.
Alors, là, c'est là où il y a eu des petits accidents de parcours. Mon père est tombé malade pendant mes études, assez sérieusement malade, et il est décédé quand fin de maîtrise, je crois. Du coup, ça a été, il est décédé assez brutalement, très brutalement, on peut le dire. Et là, du coup, j'ai fait un espèce de rejet du droit, et du coup, je me suis arrêtée. À ce moment-là.
J'ai tout arrêté.
Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté.
Fait quoi ?
J'étais travailler. Alors, à la fois, je me racontais l'histoire que c'était pour ma famille, alors que ma mère, financièrement, pouvait s'en sortir. Mais voilà, à ce moment-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, j'ai arrêté, j'étais travailler. Pas du tout dans un boulot juridique, d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
J'ai trouvé un boulot dans la mode. Alors, c'était par une copine. C'était une marque de vêtements. Et c'était au début un espèce de poste un peu d'assistante qui faisait un peu tout. J'étais l'assistante du PDG, qui était très sympa d'ailleurs, et comme il était très cool comme PDG, au fur et à mesure il me laissait faire plein de choses, et du coup il y avait par exemple les salariés des magasins, des boutiques de vêtements qu'il fallait suivre, et comme c'était du droit social, alors du coup je m'y suis mise. Après il y avait les beaux commerciaux des boutiques, alors je lui disais, vous savez, je fais des études de droit, je peux m'en occuper.
Donc vous êtes rentrée par la petite porte de l'assistante et vous avez un peu fini juriste.
Exactement. Le juriste un peu, alors très très junior, parce que j'étais vraiment toute jeune et je sortais de la fac, mais enfin voilà, j'ai retrouvé quand même mon goût pour le droit dans ce poste-là, où je suis restée un peu moins de deux ans, et du coup, il m'a fallu 2 ans, je crois, 2-3 ans, après le décès de mon père, pour me dire, je vais devenir avocat. Je vais le faire.
Donc c'est revenu.
Et c'est revenu, ouais. Il m'a fallu ce temps-là, je pense que c'était le temps du deuil, enfin je sais pas exactement, c'est pas très clair, mais il m'a fallu ce temps-là. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais le faire. Et donc je me suis inscrite à un DESS, et je me suis inscrite à l'IEJ pour préparer le concours du barreau. Et j'ai fait tout ça en une année, et ensuite j'ai rejoint l'EFP. Donc du coup, j'avais un petit décalage d'âge, enfin voilà,
qui était complètement... Du coup, vous avez finalement rattrapé le... Parce que vous avez eu votre bac assez tôt, donc...
Exactement, absolument. La différence d'âge, je ne voyais pas du tout. Alors à l'époque, je m'en faisais tout un monde. Je me disais, je vais être beaucoup plus vieille que tout le monde, alors que, évidemment, non.
Donc ça a vraiment été une opportunité, une histoire le père d'une amie qui cherchait quelqu'un, enfin, où vous aviez quand même un peu cherché dans la mode ou...
Ah non, pas du tout. J'avais pas du tout. Ah ouais, c'était un hasard complet. Je me souviens sincèrement même pas comment j'ai trouvé ce... Enfin, je sais que c'était par... relation, je sais plus du tout. Je pourrais même pas vous dire
une
qui.
Opportunité comme ça qui
complètement.
S'est présentée.
Et c'était vraiment au début, c'était un petit truc. Enfin, vraiment, c'est un poste d'assistante,
non,
quoi.
J'en doute pas.
L'assistante classique du patron qui gère les rendez-vous.
Vous vouliez juste faire une pause.
Exactement.
Gagner un peu d'argent.
Exactement.
Et, voilà.
Ça n'avait vraiment pas vocation à devenir quelque chose de durable. C'était, je prends du temps pour y voir plus clair, quoi. Pour savoir ce que je vais faire. En attendant, effectivement, je gagne ma vie. Je me suis fait des copines pour la vie, parce que quasiment toutes les filles avec qui je bossais à l'époque sont restées des amies. J'ai découvert le milieu de la mode, qui est quand même très rigolo quand on vient du droit. Enfin, c'est un univers...
C'est plus fantasque.
Ah ouais, clairement. Et c'était très chouette parce que j'ai découvert plein de choses. On travaillait avec un grand groupe japonais, donc j'étudiais le contrat de licence. Enfin, voilà, j'ai fait des choses... Par ailleurs, juridiquement intéressante. Hein.
Et puis c'est intéressant que, par votre propre appétence, vous soyez allée naturellement vers les domaines un peu juridiques que vous pouviez développer dans ce poste qui
Absolument.
N'était pas un poste de juriste.
Exactement.
Ça ne trompe pas, quoi.
Oui, en fait, voilà, c'est ce qui m'a permis de conforter mes choix, quoi, et de me dire, oui, si, ça m'amuse. Alors, je sais que pour des gens qui ne sont pas juristes ou avocats, ça peut sembler troublant de se dire que c'est ça qui nous amuse, mais effectivement, oui, moi, ça m'amusait de gérer les contrats de travail des vendeuses, ou d'ailleurs les questions juridiques qui se posaient par rapport à leur contrat de travail, la durée... les heures qu'elle devait faire, les baux commerciaux et le contrat de licence. On avait eu un procès en contrefaçon contre une autre marque de vêtements très connue. Donc ça aussi, ça me fascinait d'étudier le droit de la contrefaçon. Et voilà, donc oui, et ça s'est fait doucement comme ça. Et en quelques mois, je me suis retrouvée avec un poste qui avait quand même une forte connotation juridique. Je continuais de gérer l'agenda du patron, mais par ailleurs, voilà, je me suis fait mon petit poste sur mesure et c'était quand même très très chouette.
Donc qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Vraiment le temps du deuil, de faire le point
Alors en fait, ce que j'en retiens, parce qu'à l'époque ça m'avait beaucoup stressé de me dire je vais y revenir au droit. Et je le vivais comme, à l'époque c'était comme un accident de parcours. D'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte que voilà, il y a peu de parcours très linéaires en réalité. Et qu'il faut s'autoriser ces moments-là. Moi, c'est ce que je dis maintenant quand je rencontre des étudiants ou de tout jeunes professionnels qui me disent « Oui, mais j'ai fait ça, et puis après j'ai changé d'avis, puis j'ai fait ça, et puis ensuite, voilà, il m'est arrivé ça. » Je dis « Mais sur le long terme, ça s'efface complètement, quoi. » Et c'est ça qui est intéressant, finalement, ça donne aussi de la richesse. Et moi, ce dont je me rends compte maintenant, c'est que toutes ces expériences-là, ben voilà, me permettent aujourd'hui de travailler avec d'autres marques dans la mode et de dire « Ben oui, ça... » Je travaillais avec cette marque à l'époque, il y a plus de 20 ans. Donc, moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'il n'y a rien de définitif. Dans tous les sens du terme. Il n'y a rien de définitif en positif ou en négatif. Et que du coup, il faut vivre l'expérience et voir ce qu'on en retire après, derrière. Et souvent, le sens vient après, en fait. On se rend compte de l'utilité de cette expérience-là sur du long terme.
Et comment se passent vos premiers stages ? Parce que donc vous rejoignez l'école, vous avez déjà 2-3 ans d'expérience professionnelle dans les pattes.
Exactement.
Donc une certaine maturité oui. Dans le monde du travail. Et là, vous devez retourner à un stade
absolument.
Un peu junior.
Enfin... Absolument. Alors ça, c'est peut-être que l'âge aussi, avoir un peu plus de maturité m'a aidé. Parce que quand s'est posée la question du stage à l'EFB, les fameux 6 mois après le concours du barreau, moi j'avais un problème majeur, c'est qu'il fallait que je gagne ma vie. Parce que je vivais seule déjà, etc. Et donc, c'est ce qui me fait beaucoup rire quand je discute avec des jeunes stagiaires, c'est qu'ils me disent « Oui, c'est pas payé. » Je dis « Ouais, je sais, c'est un vrai problème. » Ou alors très très peu, évidemment, payé. Je dis « Oui, parfois on oublie que les gens n'ont pas des moyens, en fait, ou n'ont pas forcément de famille qui peuvent aider. » Et donc moi, quand s'est posé la question... C'était très clair que je voulais être payée, mais vraiment payée. Une vraie rémunération, pas juste une indemnité de stage. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai trouvé un stage et j'ai demandé à être payée avec une vraie rémunération. Et en fait, j'ai mis en avant mon expérience professionnelle, en fait, en disant, mais j'ai déjà travaillé avec une expérience de juriste junior, mais j'avais déjà une expérience professionnelle. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a dit, ok, je vais vous payer pendant votre stage. Et là, c'est pareil, j'avais répondu à une annonce UGA, hein, tout ce qui est de plus classique.
Oui, donc même pas le type de cabinet dont on pourrait attendre qui donne une vraie rémunération.
Pas du tout.
A priori.
A priori, non, c'était une femme qui était ancienne membre du Conseil de l'Ordre d'ailleurs, Paul Rubin, que je garde un souvenir très ému d'elle. Elle était dans un cabinet où elle était associée, mais c'était pas un gros cabinet, c'était un petit cabinet d'affaires. Elle faisait beaucoup de social, elle. Mais donc voilà, et c'était pour elle, c'était un investissement financier, hein, donc non, c'était pas du tout évident, et elle m'a fait confiance, et voilà, je l'en remercie parce qu'elle m'a donné...
Comment s'est passé ce stage ?
Alors, le stage en lui-même était formidable, parce que voilà, là pour le coup, je découvrais le métier d'avocat, parce que j'avais aucune expérience dans un cabinet, et donc j'ai tout appris, comment on rédige, comment on tient sa feuille de temps passé, des choses très, voilà, qui étaient pour moi complètement nouveaux, et puis elle était très formatrice, vraiment. On travaillait beaucoup la rédaction, des choses comme ça, donc ça c'était formidable. Après, l'aspect moins sympa, c'est que malheureusement ça n'a pas duré parce qu'elle a eu un problème de santé. Voilà, ça fait partie des choses malheureusement un peu tristes qui arrivent. Et du coup, je suis partie après quelques mois seulement. Et il a
donc
fallu...
vous avez dû trouver un autre stage.
J'ai pu finir mon stage, ouais. Il a fallu que je trouve ma première collaboration. Ouais. Et là aussi, expérience quand même très très drôle, parce que j'ai pu finir mon stage avec elle. Et ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Enfin, moi, si ce n'est voilà, que sur la fin, elle était tombée malade. Donc je me suis retrouvée un peu seule sur la fin de mon stage. Mais là aussi, j'ai trouvé ça très formateur du coup. C'est quelque chose aussi dont je discute avec les plus jeunes parce qu'ils me disent parfois, mais mon maître de stage, il me forme pas, ou il m'explique pas, ou il est pas là, etc. Et je dis oui, c'est vrai, ça arrive parfois. Je l'ai vécu moi aussi, avec voilà, pour une raison un peu différente, parce que voilà, sur la fin, elle était malade. Mais du coup, c'est là aussi qu'on apprend. Donc voilà, moi je l'ai vécu en tout cas comme une expérience positive. Et ma première collaboration, alors là, elle est quand même extrêmement drôle, parce que là aussi, nouvelle annonce UJA. Et là, je fais un choix vraiment très réfléchi professionnellement, parce que je voulais un tout petit cabinet individuel. Je ne voulais pas être dans une grosse structure. Par ailleurs, je pense que mon CV ne me permettait pas de rejoindre ou en tout cas de prétendre à une grosse structure, parce que justement, un parcours un peu différent. Et surtout, je savais que je voulais très vite m'installer. Je savais que je voulais être à mon compte. Et donc, je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre comment être à son compte, c'est d'être avec quelqu'un qui le fait et dans une structure individuelle. Et donc, je suis recrutée par cette dame qui est à l'époque totalement inconnue du grand public. Hein, petit cabinet individuel, tout ce qui est plus classique. Et, sauf que quand elle m'embauche, à peu près 2 semaines après, elle est nommée au gouvernement. Alors ça, c'est un des moments les plus drôles de ma carrière.
Et vous saviez qu'elle avait un rôle politique ?
Alors oui, je savais qu'elle avait un investissement politique. Elle était à l'époque le RPR. Elle avait, je crois, un mandat en plus local dans la ville de Pantin. Mais évidemment, je ne savais absolument pas qu'elle pouvait prétendre à un poste au sein du gouvernement.
Et alors, quand la nouvelle est tombée, qu'est-ce que vous en avez fait ?
Ah bah alors, c'était très très drôle, parce qu'en fait, donc j'étais sa seule collaboratrice, et en fait, elle a été nommée un matin. Je crois même que c'était 15 jours après ma prestation de serment. Enfin, c'était vraiment très très récent. Je venais d'arriver 15 jours, 3 semaines. Et sauf que quand elle a été nommée, donc la tradition républicaine veut que le président et les autres membres du gouvernement appellent la personne qui est nommée. Enfin, c'est une tradition que j'ai découverte ce jour-là. Sauf qu'on n'arrivait pas à la joindre, parce que son portable avait été tellement saturé de messages de félicitations qu'on n'arrivait pas à la joindre au téléphone. Et du coup, le secrétariat du cabinet m'appelle en panique en me disant « Mais j'ai Monsieur Raffarin au téléphone, j'ai Monsieur Sarkozy au téléphone, j'ai la présidence de la République, je ne sais pas quoi faire, au secours !» Et du coup, j'étais moi au palais et j'ai dit « C'est bon, bah, faites-moi suivre les appels parce qu'on n'arrivait pas à la joindre. » En fait, elle était dans un café à ce moment-là, quand elle a appris elle-même sa propre nomination. Et donc, son portable a explosé immédiatement et personne n'arrivait à la joindre. Et donc, c'est moi qu'ils ont appelé. Et donc, c'était évidemment très, très drôle parce que voilà, vous avez le secrétariat de la présidence de la République qui vous demande où est-elle et vous dites « Écoutez, je ne sais pas, je vais vous la trouver. » Et donc, j'avais été courir au café qui était à côté du cabinet parce que je me doutais qu'elle, c'était en général, elle était là à 8h le matin. Donc, j'ai couru la rejoindre. Ils sont, mais j'ai le président de la République qui peut vous parler. Et donc, elle est ce jour-là, elle est partie du bureau et elle n'est plus jamais revenue.
Et vous avez fait comment ?
Et bien, j'ai continué toute
mais
seule.
Dans son cabinet ?
Dans son cabinet, absolument.
Donc, ça, vous avez géré ses dossiers ?
J'ai géré tous ses dossiers du jour au lendemain toute seule. Alors là aussi, je ne cache pas que j'ai eu des moments de panique absolument épouvantables, parce que j'étais toute... j'avais 15 jours de barreau, quoi. Et donc, je me suis retrouvée avec des questions existentielles. Autant vous dire que quand elle est secrétaire d'État à la justice, vous ne l'appelez pas pour lui demander l'assignation avec le délai de 15 jours, comment ça se calcule, etc. Vous la laissez tranquille, parce qu'elle a d'autres choses plus importantes encore à gérer. Et donc là aussi, je me suis vraiment débrouillée toute seule en appelant des copines, des copains, en appelant l'huissier en disant « Alors, voilà, j'ai ça à faire, comment je fais, etc. » Et donc, j'ai eu des moments d'angoisse horrible, mais c'était très, très drôle. J'ai eu du coup la chance d'être invitée à déjeuner une fois ou deux Place Vendôme. Ça nous a fait beaucoup rire, elle et moi, parce qu'on se regardait. Enfin, voilà, j'ai le souvenir d'un déjeuner donc au ministère de la Justice où on se regarde et on se marre parce qu'on se dit bah, « il y a un mois, on ne pensait pas qu'on allait se retrouver déjeuner là. » Quoi.
Mais en plus, vous vous connaissiez pas.
Non.
Enfin,
non.
Vous aviez à peine eu le temps de vous connaître.
Absolument. Et c'est ça qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'elle m'a fait une confiance totale. Donc, je la remercie encore aujourd'hui. C'est Madame Nicole Gage. Et donc, elle est. Alors, je pense aussi qu'une. Voilà, elle n'a pas eu non plus tellement de choix, elle devait gérer tellement de choses de front, donc elle m'a fait confiance. Je pense qu'elle a dû se rendre compte aussi après que ça allait, mais elle m'a tout laissé, hein. Procuration sur les comptes bancaires, vraiment.
C'est incroyable.
Oh, ouais, non, c'était très drôle.
Et j'allais vous demander, vous avez l'aide que vous avez requise, du coup, les huissiers, les confrères, on vous l'a donnée
Oui. Oui, alors, faut avouer que quand en plus, enfin, on va pas se cacher les choses, hein, mais quand vous dites que vous êtes la collaboratrice de quelqu'un qui est ministre, tout de suite, ça aide un peu aussi. Hein. Mm. Ça ouvre quelques portes, je ne le cache pas. On vous prend au téléphone. D'abord, un, parce que c'est drôle, et deux, effectivement, voilà, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. D'un point de vue professionnel. D'ailleurs, quand on avait fait ce déjeuner, elle et moi, on se marrait parce qu'elle me disait bah, « Maintenant, il y a le bâtonnier qui attend dans la salle d'attente. » Les rôles sont un peu inversés, c'était très drôle. Donc oui, j'ai pu appeler quelques personnes qui me donnaient des conseils, des recommandations, huissiers, etc. Oui, j'ai eu le sentiment de pouvoir demander à l'aide. Alors, après, assez rapidement, je me suis débrouillée, mais là aussi, c'était très, très formateur. Mais j'ai vécu, je crois que la collaboration a duré presque un an, un petit peu moins qu'un an, parce que je me suis rendu compte, là aussi, toute seule, qu'elle n'avait pas forcément le droit de rester en cabinet individuel. On avait un problème de structure. Et au bout d'un moment, c'est moi qui lui ai dit, écoutez, Nicole, je crois que voilà, cette organisation-là ne peut pas durer.
Ce qui fait qu'elle n'est pas très déontologique.
Absolument.
Vous n'exercez pas la profession d'avocat.
Exactement. Et c'est drôle parce que, en fait, je me suis confrontée à ce moment-là. Je me suis dit, c'est drôle que personne ne nous le dise. Quoi. Personne au sein du gouvernement ne nous l'a dit. Personne à l'ordre ne s'en est inquiété. On a continué comme ça. Bah, alors, c'est vrai que ça s'est fait dans une urgence absolue. Donc, elle avait été nommée en remplacement de quelqu'un qui a été mis en examen, donc ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, c'est quand même bizarre d'être à la fois avocat et membre du gouvernement. Et quand on a un peu creusé, on s'est rendu compte, donc elle a dû arrêter, elle, son métier d'avocat qu'elle a repris depuis. Et donc moi, je me suis retrouvée à devoir chercher de nouveau une collaboration.
Mais quand même, pendant cette quasi-année de collaboration, comment ça s'est passé avec les clients ?
Oh, ça s'est passé plutôt bien parce qu'ils savaient qu'elle était au gouvernement, donc ils savaient qu'elle n'était pas là. Et en même temps, je les rassurais en disant « Vous inquiétez pas, on surveille ça de près, on fait attention, etc. » Donc, non, les clients, enfin, je crois même qu'ils étaient, pour dire la vérité, plutôt flattés hein, d'avoir un avocat qui était membre du gouvernement.
Non, mais c'est intéressant par rapport à l'intuition personnelle quand même.
Parce oui.
que même s'ils sont flattés d'avoir pour avocat quelqu'un qui est membre du gouvernement, si pendant quasi un an leur interlocuteur unique ça devient la collaboratrice, dont en plus ils viennent juste d'entendre parler parce qu'elle est arrivée
Absolument.
Il y a deux semaines, et qui reste malgré tout,
oui.
c'est pas juste de la flatterie, on dirait que leur avocat soit. Enfin, je sais oui. pas, j'imagine, mais c'est intéressant quand même par rapport à cette possibilité de délégation et de.
Alors, moi je les rassurais en disant. D'ailleurs, quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. Hein. Je leur disais, non, mais vous inquiétez pas, Nicole suit de près tous les dossiers, elle regarde tout. Alors, on faisait des points, elle et moi, hein, mais évidemment, de temps en temps, mais c'était quand même très ponctuel, il faut dire la vérité. Mais voilà, je pense qu'elle, elle me faisait confiance et que du coup, après, les clients avaient peut-être... Alors, comme j'essayais aussi de les tenir informés, peut-être que ça les a rassurés aussi en disant, mais il y a quelqu'un qui suit, ça va, enfin, on a des informations, on a des courriers avec un en-tête, etc. Donc oui, mais en fait, je crois que surtout les clients, ils ont besoin d'être rassurés et que quand ils ont accès du coup à cette information là, bah, ça se passe plutôt bien. Votre remarque en tout cas est intéressante parce que ça, voilà, c'est finalement nul n'est irremplaçable. Hein.
Non mais en fait cette remarque je la pose d'autant plus que je vais diffuser là dans deux ou trois semaines l'interview de Pierre-François Rousseau donc, qui sera diffusée lors de la diffusion de votre interview et on a cette discussion à un moment puisque voilà, je lui pose la question de qu'est-ce qu'il aimerait faire dans ses projets. Il dit, ben, à un moment, j'aimerais bien pouvoir m'arrêter 3 semaines, 1 mois, ne plus toucher à rien. Et je lui dis, ben, qu'est-ce qui vous empêche ? Il dit, ben, je peux pas laisser mes clients, alors qu'il exerce avec un associé et des collaborateurs. Et donc, on a cette discussion. Et donc, c'est aussi pour ça que je rebondis là-dessus, parce que les interviews s'enrichissent les unes les autres. Mais
la vie m'a appris qu'on peut vraiment s'arrêter. Mais d'ailleurs, on va peut-être en parler sur la suite de mon parcours, mais on peut vraiment s'arrêter et on peut revenir. Et en fait, on peut transmettre à quelqu'un d'autre parce qu'on se raconte aussi un peu tous l'histoire que... Parce qu'on est très investi en général dans nos dossiers quand c'est notre cabinet.
Et c'est normal.
Et c'est normal, évidemment, et c'est tant mieux. Tant mieux qu'on soit impliqué. Absolument, oui. Ça veut dire qu'on fait les choses avec cœur, mais en réalité, on peut s'arrêter, à condition de le faire, voilà, qu'il y ait de l'information qui circule, qu'on rassure les clients, qu'on leur explique, qu'on supervise, etc. À l'époque, je suis restée toute seule pendant un peu moins d'un an, Sincèrement, j'ai pas le souvenir d'un client qui a quitté le cabinet. Hein. Mmh. Alors, encore une fois, c'était un contexte quand même très particulier.
Bien évidemment.
Mais quand même, je suis d'accord, on aurait pu imaginer des clients qui disent si elle est au gouvernement, évidemment qu'elle va pas s'occuper de mon dossier, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre qui sera plus présent, plus etc. Pas du tout.
Et donc, au bout d'un an, vous décidez que tout ça, ça tient pas trop la route.
Oui, je fais vérifier avec l'ordre qui me confirme. Oui.
Voilà, en tout cas, vous soulevez un loup et vous décidez de partir.
Absolument.
Est-ce qu'elle a arrêté son exercice en parallèle ?
Absolument.
Ouais, elle a arrêté. De toute façon, vous pouviez pas rester.
Je ne pouvais pas rester avec elle. Mmh. Elle m'a proposé à l'époque de reprendre sa clientèle et je n'ai pas voulu. Elle a vraiment accepté c'était très, très généreux de sa part. Hein, parce que du coup, je me retrouve avec une clientèle toute faite. Mais son activité était pour le coup un peu trop généraliste pour moi. Alors en tant que collaboratrice, je le faisais avec de l'engagement, mais c'était pas la clientèle que je voulais forcément. J'avais vraiment mon idée en tête. Moi, c'était l'entreprise pure. Pas de dossier de divorce, pas de pénal, pas de dossier en droit des étrangers. C'était pas des matières dans lesquelles moi j'étais à l'aise et c'était pas celle que je voulais développer. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de chercher une nouvelle collaboration.
Et
je l'ai fait. Et elle a duré, je crois, 2 mois. 1 mois.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je suis tombée sur un des fameux dingues dont on vous parle quand on est jeune avocat, que je n'avais pas rencontré jusqu'à présent, puisque j'avais travaillé avec ces deux femmes qui étaient formidables. Et là, je suis tombée sur un vrai dingue. Mais d'ailleurs, moi, ça me faisait rire, parce qu'il était... on était deux collaborateurs, et il nous... Moi, personnellement, il s'est toujours bien comporté avec moi. Je peux pas le blâmer. Mais il hurlait sur l'autre collaborateur, il lui jetait des trucs à la figure. Vous savez, le fameux mythe qu'on entend, le patron qui vous jette les trucs à la figure, au début, vous lui dites, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et donc, moi, à chaque fois, je prenais des fous rires. Mais parce qu'en fait, je trouvais ça tellement absurde, tellement dingue, et du coup, ça le déstabilisait complètement parce que je prenais un fou rire et j'arrivais pas à m'arrêter.
Comme au théâtre, quoi.
Mais oui, et un jour, je l'ai entendu, il s'est mis à hurler contre un client, mais une crise de rage, un truc complètement ahurissant. Et là, j'ai dû sortir parce que je pleurais de rire. Et il m'a regardé, il était complètement désarçonné. Il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Et je lui ai dit, mais vous êtes fou ? Je lui ai dit, vous allez faire une crise cardiaque, ça va pas vous mettre dans des états pareils. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un problème sur mes dates de vacances que j'avais posées vraiment bien en avance. Quand il m'avait recruté, je lui avais dit, j'avais pris des billets d'avion, etc. Et au dernier moment, il me dit que je dois annuler mes vacances. La veille de mon départ. Hein. Et ce à quoi j'étais prête à jouer les jeux, je lui dis d'accord. Je lui dis, mais à ce moment-là, il faut me rembourser. Je vous avais dit que je partais et que j'avais pris un billet d'avion, etc. Ouais. Je lui dis, il faut me rembourser le billet d'avion. Et il me dit non. Non. Vous annulez vos vacances et je ne vous rembourse pas votre billet. Et là, j'ai dit, non. Et puis, je suis partie en vacances. Et je suis jamais revenue. Et voilà. Et voilà comment je me suis installée ensuite. Parce que je me suis dit... vous voyez, j'avais eu 3 péripéties, alors différentes. Une avec un problème de santé, l'autre qui est au gouvernement. Enfin, c'était improbable, mais quand même. Le troisième, c'était...
Le caractériel.
Le dingue. Enfin, moi, je dis dingue. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est bon. Enough is enough, je m'installe.
Donc, 1 an de bar.
À peine, ouais.
Installation. Cela dit, j'ai envie de dire que votre première collaboration, elle a été parfaite par rapport à votre objectif, qui est, moi, je veux un petit cabinet où je vais apprendre à être à mon compte.
Exactement.
Alors là...
Oui, c'était un très bon choix. Oui, c'était un vrai pari stratégique et j'avoue que j'étais servie parce que j'ai dû gérer la facturation, je gérais le compte bancaire, je gérais les relances de paiement. C'était très très formateur et donc oui, je me suis installée. J'ai prêté serment en 2004, je me suis installée en 2005.
Et alors cette installation ?
Écoutez, ça
comment
c'est...
vous l'avez pensé en fait ? Est-ce que vous aviez des clients déjà ?
J'avais zéro client, vraiment. Ça c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs dans les plus jeunes qui s'installent. Est-ce que vous aviez des clients, un business plan, etc. J'avais zéro client. Je peux même pas dire un client. Mais alors là, j'ai réfléchi de manière. Je me suis demandé comment j'allais faire. Je me suis dit j'ai pas de client, je suis inconnue, j'ai 31 ans, quelque chose comme ça. Comment je fais ? Je savais ce que je voulais faire comme type de dossier. Et là, j'ai fait un choix, j'ai tout misé sur l'adresse, étonnamment. Parce que je voulais que ça aille vite en plus. Donc, j'ai été voir un centre d'affaires qui était Place Vendôme. Peut-être que c'était le souvenir de Nicole que j'allais voir à Place Vendôme. Et donc, j'ai trouvé un bureau qui était un espèce de mini bureau, enfin c'était même pas un bureau, je pense que c'était un placard à balai, qui était le moins cher évidemment, mais mon adresse c'était Place Vendôme. D'ailleurs j'avais eu la visite de l'ordre, parce que je crois que j'étais à l'époque la première, enfin c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas, la première avocate qui demandait à s'installer en centre d'affaires dédié. Et donc l'ordre était venu, le secrétaire général de l'ordre était venu voir mes bureaux, c'était monsieur Lucet à l'époque, qui avait visité, c'est d'un point de vue déontologique, j'avais un bureau qui fermait à clé, si j'avais un fax qui était bien dans mon bureau et pas un fax commun, etc., la salle d'attente, et donc il avait validé cette location. Et en fait je me suis dit, si on voit que je suis Place Vendôme, les gens vont se dire que j'ai des clients, parce que j'ai...
Le bluff total,
mais... Vraiment, je peux pas. Je l'ai pas vraiment. Enfin, j'ai fait ça de manière un peu intuitive, hein, j'avoue. J'avais évidemment pas de ressources financières. Donc à l'époque, j'ai fait un truc un peu absurde. Je le regrette aujourd'hui, mais j'ai. Enfin, d'un point de vue financier, hein, pas pour le reste, mais je venais d'acheter mon appartement et je l'ai vendu. Et comme j'avais fait, je crois, j'avais 20 000 euros, je crois, enfin, l'équivalent de 20 000 euros, 30 000 euros qui me restait grâce à cette plus-value, et bien je me suis dit, je vais vivre avec pendant un an, le temps d'avoir des clients. Et c'est ce que j'ai fait.
Et ça a marché ?
Oui, ça a marché.
Alors, pourquoi vous le regrettez ?
Non, parce que je parle des prix de l'immobilier. Si j'avais gardé mon appartement à Paris à l'époque, acheté en 2002, sincèrement, c'est juste que du coup, je ne suis pas redevenue propriétaire avant 10 ans. C'est pour ça que je dis que c'était un mauvais choix, ouais. Purement financier d'un point de vue immobilier. Pas du tout par rapport à mon activité, parce que pour le coup, ça a assez rapidement bien marché, j'avoue.
Donc, il y a eu l'adresse, mais du coup, vous êtes allé les chercher où, vos clients ?
Alors, ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent quand les jeunes avocats me disent... Et en fait, je me suis dit, bon, ok, bah, où sont mes clients, en fait ? Qui sont mes clients ? Donc, mes clients, c'est des chefs d'entreprise, plutôt des petites entreprises. Où sont-ils ? Où je vais les rencontrer ? Et donc, j'ai commencé à écumer tous les lieux de networking, de conférences, vraiment rencontrer des experts comptables pour me faire un réseau. Les anciens collègues avec qui je travaillais, en fait, j'ai dit à tout le monde, concrètement. Enfin, c'est ce que je dis, moi, en général. Je dis, dites à tout le monde que vous vous installez et vous allez forcément avoir des clients. J'ai écrit un article là-dessus il n'y a pas longtemps.
Vous me l'enverrez ?
Avec plaisir. Ça s'appelle « Construis-le et ils viendront », en fait. Ça vient d'un film avec... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Celui qui fait Danse avec les loups. Je connais que lui, mais j'ai oublié, évidemment.
Ah, j'ai vu Danse avec les loups cet été.
Voilà. Kevin Costner, évidemment. Et donc, voilà, moi, je considère que si on s'installe et qu'on le dit à tout le monde, les clients arrivent. C'est pas de la magie, hein, mais forcément, mathématiquement...
Donc, il y a des experts comptables qui vous ont envoyé des dossiers, absolument. Peut-être d'autres confrères...
Des confrères, oui, j'avais rencontré un ou deux confrères qui m'avaient envoyé des dossiers, des copains qui avaient eux-mêmes des copains qui avaient fait leur boîte, qui m'ont envoyé des gens, et puis après, le bouche à oreille. Et finalement, ça a été... Alors, les deux premières années, j'ai pas gagné ma vie de manière éblouissante, hein, je vais pas vendre de rêve, mais en tout cas, je m'en suis sortie. Financièrement. J'ai liquidé mes petites économies, mes 20 000 ou 30 000 euros d'économies. Une somme quand même non négligeable, hein, mais en tout cas, voilà.
Oui, mais finalement, il faut le voir comme une somme d'investissement, comme un entrepreneur.
Exactement. Mais c'est comme ça que je l'ai conçu, hein, d'ailleurs. J'avais été voir quelqu'un, un expert comptable, d'ailleurs, pour travailler sur mon business plan. Et d'ailleurs, il m'avait dit cette question que j'avais trouvée très, très drôle. Oui, et combien de chiffre d'affaires vous allez faire la première année ? Je ne sais pas, comment voulez-vous que je le sache ? Et du coup, il m'a dit, ah, si, il faut absolument savoir. Et en fait, j'avais fait un calcul de tous mes frais, en fait, le loyer, les cotisations, etc. Et puis, j'avais additionné le tout. Et puis, j'avais dit, la première année, je vais juste payer mes frais. C'est pas grave si je gagne pas d'argent, parce que j'ai mes économies pour vivre. Et donc, j'avais mis en face chiffre d'affaires prévisionnel. J'avais mis, en gros, le montant de mes dépenses. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours, quand vous faites vos prévisions, écrivez-les, parce que du coup, vous allez les réaliser. J'ai cette petite conviction que ça marche beaucoup comme ça. Et voilà, et du coup, ça s'est fait. Et après 2 ans, je gagnais à peu près correctement ma vie, et ça n'a fait que continuer depuis. Et je suis installée maintenant depuis presque 15 ans, avec une pause à un moment donné, d'ailleurs. Et voilà, et ça s'est toujours plutôt bien passé.
Et pourquoi une pause ?
Encore la vie ! Je suis en train de réaliser que j'oublie qu'en fait on ne parle pas que toutes les deux et que ça va être je réalise dans le c'est très très drôle j'ai les drames de la vie tout simplement en 2014, mais je vais le dire comme ça je me dis qu'il y a des gens qui écoutent et ils vont se dire que en fait on peut arrêter. J'ai perdu un bébé et la même semaine j'ai divorcé. C'était une semaine très éprouvante. Et ce qui était incroyable, c'est qu'à ce moment-là, je travaillais évidemment, puisque j'avais mes dossiers. Et du coup, alors, donc quand j'ai fait cette fausse couche, c'est d'un point de vue physique, c'était absolument épouvantable, c'était très long. Sauf que j'ai pas pu m'arrêter en fait, parce que j'avais des gros dossiers en cours, notamment un dossier de cession, avec en face le cabinet. Donc moi, je représentais les vendeurs et représentais les acquéreurs. Et je vais citer le cabinet parce qu'ils ont été absolument formidables. Le cabinet, c'était Bredin Pratt en face. Et donc, on avait quasiment tout finalisé. Hein. On avait fait le closing, mais il restait des petites choses. Et en fait, c'était horrible parce que j'étais tout le temps à l'hôpital et je l'avais dit au confrère, en fait. Je ne l'avais pas dit au client, mais je l'avais dit au confrère. En lui disant, je suis désolée, je suis à l'hôpital, c'est très compliqué. Et le confrère a été majestueux, magnifique. La confraternité, vraiment, dans toute sa splendeur. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, je gère. Et il s'est occupé des dernières formalités à ma place. Le client n'a rien vu, n'a rien su. Je lui ai dit après, au client. Mais je me suis dit, sur le coup, je ne vais pas lui dire, parce qu'il va paniquer. On avait déjà signé, mais il restait des petites choses à gérer. Et donc j'ai tenu à ce moment-là, j'ai tenu, sauf que quand ça s'est arrêté et que, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai continué tous mes dossiers, ça a duré, je crois, 6 mois pour les finir, pour terminer les dossiers en cours. Je faisais en sorte de ne pas en reprendre de nouveau et à ce moment-là, j'ai arrêté.
Donc vous faisiez en sorte de ne pas reprendre de nouveau, donc vous aviez conscience qu'il fallait que vous preniez un temps d'arrêt.
Je l'ai jamais formalisé, c'est ça qui est très drôle. Ouais. Ça s'est fait de manière, ça peut paraître bizarre hein, ce que je dis, mais
complètement inconsciente. Vous avez refusé les nouveaux dossiers. Ouais. Quand tout s'est terminé.
En fait, je faisais plus d'efforts aussi de développement, parce que faut le dire les choses. Enfin, moi, je fais toujours des actions de développement commercial. Hein. Je suis toujours à la recherche de nouveaux clients, hein, de nouveaux dossiers, de manière vraiment systématique. Et par la force des choses, quand vous en faites plus, bah, y a moins de dossiers qui rentrent. Et du coup, ouais, j'avais complètement arrêté les actions de développement. Je me suis pas dit à ce moment-là, quand j'ai commencé à arrêter, enfin sur ces 6 mois-là, je sais pas, je me suis jamais dit que j'allais m'arrêter, hein, vraiment, je jure que c'est vrai. Sauf que, à un moment donné, j'ai dit, ok, j'arrête. J'arrête.
Ça vous a fait quoi, ça?
C'était formidable. Sincèrement, c'est une des meilleures expériences de ma vie.
Ça faisait un peu moins de 10 ans que vous exerciez, que vous
êtes... Un peu plus, ouais. Non, 2004. Oui, c'est ça. Ouais, 10 ans, absolument. Oui, un peu moins de 10 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'arrivais plus, je pouvais plus. Je savais pas si c'était provisoire, je savais pas si c'était définitif. J'ai écrit un mail à tous mes clients et je leur ai dit je m'arrête. Du jour au lendemain. J'ai fait ça quand même proprement. Hein. J'avais trouvé quelqu'un qui pouvait me succéder dans les dossiers où il y avait juste un peu de suivi. J'ai expliqué à certains clients pourquoi, parce que la plupart étaient... J'ai toujours la chance d'ailleurs d'avoir des clients très fidèles. Je leur ai dit pour certains, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un événement de ma vie personnelle. Dans certains cas, je l'ai dit d'ailleurs, qui fait que je peux plus. J'arrive plus, je trouve plus de sens. Voilà. En fait, j'arrivais plus à m'occuper des autres. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut que je m'occupe de moi. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an.
Comment vos clients l'ont pris ?
Alors, c'est là aussi où on se rend compte. Alors, les clients l'ont pris de manière très bien, hein, mais en fait, je me suis rendu compte que pour la plupart, c'était ok, bon, vous vous arrêtez, et du coup, on va chez qui maintenant ? Ce que je comprends. Hein.
Qu'est-ce que vous nous recommandez ?
La transmission. Ouais, voilà. Et du coup, là aussi, hein, l'ego, on prend un petit coup et on se dit, je suis juste leur avocat, quoi. Mais évidemment que je suis juste leur avocat. Je suis pas leur mère. Et du coup, je me suis dit, on peut s'arrêter, en fait. On peut s'arrêter. Et il se passe rien. Alors, les clients vous disent, ah, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup travailler avec vous. Et du coup la transmission s'est faite, j'ai eu certains mots très gentils de certains clients, il y en a qui m'ont rien dit du tout d'ailleurs, je me suis dit sympa, merci. Et du coup ça s'est plutôt fait de manière plutôt fluide, hein. Mais c'est vrai que j'avais fait en sorte que les dossiers soient terminés en ordre, alors pas tous, mais en tout cas ils étaient en état, on va dire, c'était des dossiers en état, et du coup j'ai transmis à quelqu'un, je leur ai expliqué que c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé, on avait travaillé ensemble sur certains dossiers, donc qu'elle connaissait un certain nombre de clients, etc. Et donc ça s'est fait de manière très fluide, très naturelle, et les clients l'ont pris plutôt très bien.
C'est une personne que vous aviez eue en collaboration ?
Absolument. C'était quelqu'un que j'avais eu en collaboration pendant quelques temps, et donc je connaissais sa façon de travailler, et c'était installé un an auparavant, donc j'étais vraiment en confiance aussi, parce que je savais qu'elle allait bien s'occuper des dossiers. En plus, je trouvais ça sympa, parce que je me suis dit, du coup, je lui transmets aussi un peu quelques clients, et donc ça s'est fait de manière très très... très très cool, vraiment sans aucune difficulté. Je crois qu'elle m'a écrit une fois ou deux pour me poser une question dans un dossier, mais rien de plus. Mmh. Et moi, je me suis arrêtée pendant un an.
Et comment ça s'est passé, cet arrêt ?
Ça s'est passé très bien, sincèrement, ça s'est passé très bien. J'ai passé une très belle année, étonnamment, hein, parce que je me suis dit... c'était une année où je voulais réfléchir. Je voulais me poser, je voulais voyager, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup voyagé cette année-là, notamment au Japon.
Pourquoi le Japon ?
Parce que je voulais voir... C'est très personnel ce que je raconte, c'est drôle. c'est vraiment de l'intime, mais c'est pas grave. Je voulais voir les cerisiers en fleurs. Je voulais voir la Nami. Et en fait, je voulais voir la vie refleurir. C'était ça, le symbole derrière. Voilà. J'avais besoin de me dire, il y a quand même de la vie, malgré tout ce qui peut se passer. Et donc, j'ai été voir les cerisiers en fleurs. C'était absolument magnifique. Et donc, j'ai vu la vie refleurir. C'était pile un an, d'ailleurs, après ma fausse couche. Et je me suis dit, bah, la vie est quand même là. Et ce qui est très drôle, c'est que 3 mois après, je suis tombée enceinte. ce qui était vraiment contre toute attente, pour le coup. C'était pas du tout prévu. Et c'est un merveilleux cadeau de la vie. Et voilà. Et du coup, je suis devenue maman très tardivement. J'avais 42 ans. Après, après une année 2014 absolument dramatique, 2016 a été merveilleuse.
Donc voilà, vraiment une prise de temps, de recul, du voyage.
À chercher d'autres idées de ce que je pouvais faire aussi. Hein.
Et alors, comment vous avez cherché d'autres idées ?
Ah, c'était drôle ça. Ça, c'était très drôle parce que j'ai fait ça de manière assez méthodique. Et surtout, j'avais une amie et un copain, on va dire, qui étaient eux-mêmes avocats, donc, dans un grand cabinet d'affaires connu, reconnu, dont vous avez interviewé un des anciens associés d'ailleurs récemment. Et eux aussi, on avait un peu marre et on se faisait des réunions de brainstorming. C'était tellement drôle parce que les trois, on se disait, faut qu'on fasse autre chose. Donc moi, j'avais arrêté, donc c'était très cool. Et on se faisait des réunions dans la salle de conférence de ce cabinet. Et d'ailleurs, je disais,
vous complotiez au sein même du cabinet sur une évasion.
Exactement. Sur qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà. Et donc, on cherchait des idées de qu'est-ce qu'on peut faire, des idées de business. Mais là, c'était un peu absurde. Et à la fois, c'est très drôle parce qu'en fait, on voyait qu'on n'avait pas d'idées, tout simplement. Et on cherchait des idées d'activités commerciales. Voilà. On n'a évidemment rien trouvé. Alors, depuis, un est devenu juriste. Et aussi, d'ailleurs, elle est devenue juriste aussi. Elle a fait d'abord un petit séjour à l'étranger. Elle est partie au Canada, bosser dans un cabinet au Canada. Et maintenant, elle est devenue juriste. Et moi, je suis redevenue avocat.
Donc, il y a eu des moments de brainstorming.
Ouais.
Et quoi d'autre dans la méthode de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ?
En fait, je réfléchissais sur qu'est-ce que je sais faire, en fait. C'est quoi mes compétences ? Donc, je savais que j'avais des compétences dans la gestion des entreprises, parce que dans mon activité, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans mon activité, c'est que je ne fais pas que du droit, en fait. C'est que je vois le droit vraiment comme un outil de développement des activités des entreprises. Et donc, je me disais, on pourrait faire une franchise d'une activité qui marche. Alors, c'est quoi les secteurs d'activité qui marchent ? On faisait vraiment, enfin, moi en tout cas, et avec eux aussi, eux, c'était plus fun sur quels sont les secteurs d'activité qui marchent. Alors, le marché des seniors, le marché de la petite enfance. Et on faisait ça de manière, on étudiait en disant qu'est-ce qu'on pourrait proposer, est-ce qu'on va à l'étranger, quel pays. Et donc, je réfléchissais. C'est ça qui était intéressant, c'est que du coup, c'était un champ complètement ouvert. Tout était possible. Et à la fois, quand tout est ouvert et que vous n'avez pas vraiment d'idées, vous dites, ok, mais je connais vraiment rien.
Il n'y a pas d'appel.
Non, ben voilà.
Et ça vous faisait quoi de vous dire que tout était possible ?
C'était complètement libérateur, quoi. Et à la fois, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ce qui m'a fait aussi revenir à mon métier, hein. C'est qu'en fait, je me rendais compte, donc c'était complètement libérateur, en disant, c'est génial, je suis dans une liberté absolue, je peux faire tout ce que je veux. Demain, je vais aller vendre des chouchous sur la plage au Brésil, je peux. Puis après, on se dit, ouais, d'accord, mais au Brésil, je connais personne, puis vendre des chouchous, ça doit donner chaud d'être sur la plage, ça doit être lourd. Vous voyez, et tout de suite, il y a moins le glamour quand on fantasme, en fait. En fait, ouais. On quitte le fantasme de « je vais changer de vie ». C'est ça qui est intéressant, en fait, quand on le fait. C'est qu'on n'est plus à se dire « ouais, je vais partir vivre au soleil, ça va être magnifique ». C'est que du coup, on réfléchit, on se dit « ouais, enfin, j'ai pas d'amis là-bas, et puis faudrait un peu d'argent, et puis qu'est-ce qu'on gagne, du coup, quand on vend des chouchous sur la plage au Brésil ? Ok, et comment j'ai envie de vivre ? C'est quoi ?» Enfin, voilà. Et du coup, j'ai déroulé à chaque fois les idées jusqu'au bout, pour me rendre compte que, en fait, ce que j'aime vraiment faire, c'est plutôt qu'être, enfin, à la fois je suis chef d'entreprise, mais ce que j'aime faire, c'est aider les autres chefs d'entreprise. Et je me suis rendu compte d'un truc, j'ai aucune imagination en fait, j'ai pas d'idée de business. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous dites, eux ont des idées, je connais des chefs d'entreprise qui ont des idées, alors je ne sais pas où ils les trouvent, hein, c'est génial.
Moi, entreprise, c'est d'aider les gens qui ont des idées à avoir à gérer leurs idées.
Exactement, et les accompagner, de faire en sorte que ça se passe bien dans des conditions sereines. Et en plus, le pire, c'est ce que j'aime faire. C'est ça que j'aime, beaucoup plus que moi-même aller, à vendre des chouchous. Ça m'amuse pas plus que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'était comment on construit l'idée, comment on la modélise et comment on la développe. C'est pas tellement le produit en lui-même. Et du coup, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était ce que je faisais avant, en réalité, et que j'avais arrêté parce que à ce moment-là, j'étais plus capable de voir le sens de ce que je faisais, et que une fois que j'avais fait tomber toute cette pression qu'il y avait autour et de la vie personnelle et de la vie professionnelle, je pouvais de nouveau reprendre mon métier en me demandant comment l'exercer différemment.
Et alors ?
Et alors, je l'exerçais de manière complètement différente. Et ça, en fait, quand je suis revenue, je me suis dit... j'avais goûté cette liberté absolue et je me suis dit, mais en fait, pendant très longtemps, j'exerçais mon métier d'avocat avec, vous savez, une idée de à quoi ça doit ressembler un avocat, comment ça doit s'habiller un avocat, à quoi les bureaux d'un avocat doivent ressembler, et je faisais en sorte de coller à cette norme-là. Comment ça parle un avocat, qu'est-ce que ça raconte un avocat? Et quand je suis revenue, je me suis dit, tout ça, on va laisser tomber en fait. On va laisser tomber, et quitte à revenir, je vais être vraiment moi, et puis ça plaira peut-être moins. Mais tant pis, je prends le risque. Je reviens à mes conditions, entre guillemets. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est la façon dont j'exerce aujourd'hui. Maintenant, je m'autorise, par exemple, je me suis demandé, comme j'avais eu un bébé et que je ne voulais plus passer du temps à faire du networking dans des dîners en ville mondains, je me suis dit... Ok, alors comment je vais trouver mes clients maintenant? Parce que, j'ai prévenu mes anciens clients, certains sont revenus, la plupart sont revenus.
Ah, la plupart sont revenus.
C'est ça qui est drôle, ouais. La plupart sont revenus, ouais. C'est très très drôle. Je ne l'aurais pas écrit quand je suis revenue, parce que je ne trouvais pas ça très faire pour la personne qui avait repris ma suite, mais certains m'ont écrit. En fait, je me suis réinstallée, sans rien dire à personne. En fait, je me suis réinscrite à l'ordre après un an d'interruption. Et j'ai commencé à communiquer sur Internet et les réseaux sociaux. Et du coup, certains l'ont vu, parce qu'ils me suivaient sur LinkedIn et autres. Et du coup, ils sont revenus en disant « Ah, vous êtes là, alors on peut revenir ?»« Ah bon, vous voulez ?» Et alors, ils ne suivaient plus forcément cet autre avocat, pour x ou y raison. D'ailleurs, je ne suis pas tellement rentrée là-dedans. Et du coup, ils sont revenus au fur et à mesure. Et un jour, j'ai envoyé juste, après 2 ans, je crois... une carte de vœux électronique et du coup la plupart sont revenus avec le temps, enfin ça s'est refait
comme
de
quoi,
manière
ouais. C'est dingue,
mais c'est ça en fait, et c'est là où je me suis dit, on se fait des films sur ce qu'on a le droit de faire ou pas professionnellement, sur les catastrophes qui vont s'en suivre ou pas, et en fait on se rend compte que c'est pas si grave et que quoi qu'on fasse, voyez, s'arrêter un an et envoyer balader, parce que je peux quand même dire que j'ai envoyé balader tous mes clients, hein, gentiment, mais quand même, et qu'ils sont revenus. Alors je l'ai fait de manière correcte, en prévenant, en expliquant, mais quand même, ils m'ont dit, et d'ailleurs, je leur ai dit à certains, vous êtes marrant de revenir quand même. Ils me disent, non, on aimait bien la façon dont on travaillait ensemble, donc vous êtes revenus, on revient. Et du coup, dans ma façon maintenant d'exercer, je communique assez librement dans des articles où je parle parfois, je parle pas tellement de perso, là aujourd'hui j'ai dévoilé beaucoup de choses, mais je parle quand même très librement. Je n'ai plus de bureau. Je travaille de manière complètement dématérialisée. Ça aussi, c'est des contraintes que j'avais.
Donc, vous avez une domiciliation.
Absolument. J'ai une domiciliation et je gère...
Et vous travaillez d'où ?
Alors, je travaille de chez moi. Ça aussi, c'était très, très nouveau. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais devenir... Enfin, ça fait maintenant un an que je travaille un peu... Ouais, un peu plus d'un an. Un an que je travaille de chez moi. Là aussi, pour des raisons purement personnelles, de logistique personnelle. Au début, je me suis dit, je vais essayer, je vais voir. Vous voyez, dans les choses que je m'autorise maintenant, je me suis dit, j'essaye, et puis au pire, je changerai, je reprendrai des bureaux. Et en fait, les clients s'adaptent. Hein. Quand vous leur dites, au début, je me suis dit, ils vont se dire, pourquoi elle n'a plus de bureau, qu'est-ce qui se passe, c'est là, plus de clients, etc. Et en fait, c'est quand vous leur expliquez le pourquoi, ils comprennent très bien. Et au début, je me suis dit, je vais essayer pour voir si je tiens le coup. Parce que j'avais peur de la solitude. J'avais peur de m'ennuyer trop, parce que du coup, je pouvais plus avoir de collaborateurs avec qui travailler vraiment au quotidien. Et en fait, j'ai trouvé ça très confortable. Vraiment beaucoup plus facile pour moi en termes de logistique. En termes de productivité, j'ai trouvé que c'était génial, parce que plus de perte de temps de trajet, etc. Et la la quasi-totalité de mes clients sont des clients qui sont là depuis longtemps, du coup, et même les nouveaux. J'ai été approchée la semaine dernière par une grosse boîte américaine, très grosse boîte américaine, et je me suis dit, quand je vais leur dire que j'ai plus de bureau, je vais perdre toute crédibilité professionnelle, quoi, c'est sûr. Et ils vont me dire, bah, non, non. Et en fait, je leur ai dit, très simplement, je leur ai dit, bah, écoutez, maintenant, mon cabinet est complètement dématérialisé, donc on prend rendez-vous dans un lieu de domiciliation. Ok. C'était un non-sujet. Et en fait, quand vous leur dites, c'est OK. Et j'étais prête à parier que vraiment, ils allaient dire non. Et aucun problème. Et voilà. Et donc maintenant, c'est comme ça que je travaille, en m'autorisant une façon d'exercer qui est un peu différente.
Donc vous avez ce lieu de domiciliation où vous pouvez louer des salles de réunion ou,
absolument. Voilà, pour des rendez-vous.
Pour des rendez-vous et le reste du temps, vous êtes chez vous.
Absolument.
Et donc, quoi d'autre ? Il y a, donc vous avez changé votre manière de développer en passant sur la communication réseaux sociaux. Mm-hmm. Vous travaillez de chez vous principalement, ouais, et vous êtes dématérialisé.
Dans les autres changements, du coup, j'ai plus de collaborateurs. Parce que à un moment donné, je me suis demandé, en me disant, est-ce que je fais une collaboration virtuelle ? Et ça, je me suis dit que c'était pas viable, parce que, enfin, quand on est collaborateur, c'est quand même bien de pouvoir échanger facilement et d'être accessible facilement. Du coup, je me suis dit, bon, ça c'est plus possible. Alors que j'aimais beaucoup cet aspect-là, enfin, de avoir des collaborateurs ou des stagiaires avec qui qu'on essaie de former, avec qui on peut discuter des dossiers, etc. Je trouvais vraiment ça génial. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je me suis dit, bon, ce que je gagne d'un côté, je le perds d'un autre côté. Ok, voilà. Oui, peut-être que dans quelques années, je changerai de nouveau. Hein.
Ça a été une préférence, quoi.
Voilà. Mmh. Mais du coup, je fais plus de contentieux non plus, parce que je voulais cette souplesse-là de la gestion. En fait, l'idée, en fait, c'est quand je suis partie au Japon, je ne savais pas encore ce que j'allais développer comme activité, mais je voulais travailler avec un petit ordinateur. Voilà. Je voulais de la légèreté, je voulais de la simplicité dans le travail. Et mon idée, ça a été tout de suite, je ne veux plus de papier. Je ne veux plus avoir à gérer, parce que j'avais des grands locaux avec des tonnes d'archives, je faisais aussi du contentieux, etc. Et du coup, le contentieux, ça a aussi ses contraintes, quoi. C'est que le calendrier, il n'est pas fixé par vous, hein, il est fixé par un juge qui vous donne des dates. Et donc, c'est pas vous qui faites ce que vous voulez. Et moi, quand je suis revenue, je me suis dit, non, ça c'est fini. Et donc, je ne prends plus de dossiers contentieux, sauf quelques exceptions, à savoir... mes clients, alors j'encourage quand même toujours beaucoup à la transaction. Donc du coup, j'ai très peu de dossiers contentieux, je ne sais pas, peut-être 3, 4, pas plus. Mais donc plus de contentieux, parce que tout est virtuel. L'idée, c'était de pouvoir travailler où je voulais dans le monde, sans que forcément les clients sachent où je suis.
D'être un avocat digital nomade.
Complètement. Complètement. C'était vraiment l'idée. Hein. Ce qui était clair pour moi, c'était comment je veux travailler maintenant. Et le critère était la liberté. Voilà, je voulais être libre. Alors, c'est très drôle parce que digital nomade, en réalité, je pars pas. Hein. Je passe pas 15 jours en Thaïlande parce que d'abord, j'ai un petit garçon, donc c'est pas possible.
Oui, mais en théorie, vous avez designé votre vie. Absolument. Et votre vie professionnelle pour que ce soit possible.
Exactement. Et c'est possible. Mmh. Hein. Et d'ailleurs, j'encourage... tous ceux qui ont envie de le faire, à le faire. Alors après, on renonce à d'autres choses. Hein. Du coup, 50% de mon chiffre, j'ai dû laisser tomber parce que je ne voulais plus de contentieux. Et alors, ça veut dire il faut aller chercher d'autres dossiers, d'autres clients, se poser d'autres questions et du coup, renoncer aussi au plaisir de la plaidoirie. Mais j'ai fait mes choix. Et je me dis d'ailleurs maintenant, vraiment, peut-être que dans quelques années, je reviendrai. Pas pour l'instant.
Oui, vous posez aucune question. Limite sur, le changement est devenu quelque chose d'intégré en fait.
Complètement. La partie, cet aspect de ma vie qui est que j'aime le changement et que je ne vis que dans du changement, je le vivais très très mal pendant mes premières années professionnelles en me disant, mais je vais avoir un CV absolument catastrophique, j'ai trop changé, j'ai trop bougé, j'ai changé le stage, ensuite la collaboration, puis ensuite une autre collaboration, et puis j'ai travaillé en entreprise, et puis ensuite je suis devenue avocat. Enfin, je me disais, c'est complètement farfelu comme parcours, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout construit. Et en fait, maintenant c'est au contraire, c'est devenu mon ADN, quoi. C'est que la vie, c'est le changement. Et que ça continuera de changer, en fait. Et que je sais maintenant, aujourd'hui, je me dis, il n'y a rien de définitif. Et dans un an, peut-être que je changerai encore. Peut-être que je partirai à l'étranger. Peut-être que je reprendrai des bureaux. Peut-être que je reprendrai des collaborateurs. Enfin, tout est possible. Et ça, je le ferai au fil de l'eau, au gré de mes envies.
Et si si je comprends bien la chronologie, vous êtes tombée enceinte sur la fin de votre année de pause.
Absolument.
Et donc vous avez repris
en étant enceinte. Absolument. C'est quelque chose que je ne... Je... En même temps, c'était pas mal parce que comme je reprenais, bah, j'avais de nouveau peu de clients. Parce que je reprenais après un an d'interruption et que j'avais pas à ce moment-là contacté mes clients pour leur dire.
Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais pause, pardon. Allez-y.
Pardon. Oui.
On fait une pause. Il n'y a pas de problème, je coupe.
Ça va?
Mais oui.
Désolée. Tu m'as fait peur.
Aucun souci.
Et du coup, je me suis rendu compte tout à l'heure que je n'avais pas éteint le téléphone. Tu m'as pas oublié d'ailleurs.
Bah, il a pas sonné, donc
tout va bien.
Moi,
ça va, c'est pas grave.
Je coupe.
Ah, d'accord.
Ouais.
Pardon. Pardon.
Aucun problème.
Et voilà. Je reviens.
On parlait. Si, on parlait du fait que vous.
Oui, je dois redémarrer mon activité.
Vous redémarriez votre activité et donc peu de clients et donc compatible avec une grossesse.
Oui. Sur la grossesse, ça m'a pas posé de difficulté en fait de travailler en même temps qu'être enceinte parce que j'ai eu la chance d'avoir une grossesse très cool, très sereine, sans difficulté de santé particulière. Après l'accouchement, c'était un peu plus rock'n'roll. Parce qu'évidemment, là, j'ai dû gérer 3-4 mois sans mode de garde, tout en travaillant. Je ne le referai pas aujourd'hui. c'est les mois de ma vie les plus épuisants que j'ai connus. Donc, j'étais très heureuse quand j'ai eu un mode de garde. J'avoue. Ça, c'était un peu compliqué. Mais ensuite... À partir de là, après ces 4-5 premiers mois, ça s'est fait de manière très fluide parce que là aussi, je me suis autorisée à m'organiser exactement comme je le voulais, à savoir que j'allais chercher tôt mon enfant à la crèche, quitte à retravailler après un peu le soir. Mais voilà, c'est quelque chose que je me suis autorisée. D'ailleurs, à la crèche, ça les faisait rire parce qu'ils disaient « vous êtes une des mamans qui vient plus tôt ». Alors que normalement, avocat, on imaginait que vous viendriez très très tard. Et je disais non, moi j'ai décidé que voilà, j'avais la chance d'avoir un enfant et que du coup, c'est mon activité professionnelle qu'allait s'organiser autour et pas le contraire. Mmh. Voilà, grande liberté. Après, je pense que c'est aussi la chance d'avoir un enfant très tardivement, après 15 ans d'exercice à mon compte et donc pas trop d'inquiétude sur ma capacité à le gérer. Donc je me suis autorisée ça aussi. Dans les nombreuses choses que je me suis autorisée, c'est... alors là aussi, au début, je me suis dit, les clients, ça va leur faire bizarre. Et en fait, j'ai fait un truc tout bête. Hein, c'est que quand on me demandait un rendez-vous, ben, je proposais des rendez-vous à 14h ou à 9h le matin, mais jamais plus à 17h. Et si on me demandait un rendez-vous à 17h, je dis non, plutôt 9h, non, c'est mieux. Alors, sauf cas très rares où vraiment, il y avait une contrainte particulière pour le client. Mais en fait, ça n'a jamais posé la moindre difficulté à personne. J'expliquais assez rapidement, j'expliquais aussi au client que j'allais pas répondre au téléphone entre 17h et 20h. Sauf cas d'urgence extrême, auquel cas il fallait qu'il m'envoie un petit SMS pour me dire c'est très urgent, il faut vraiment que je vous parle maintenant. Et qu'en réalité, il y a.
Ouais, vous avez défini avec eux vos conditions de...
D'exercice.
Ouais.
Et encore une fois,
ça ne leur a pas posé de problème.
Mais non. Mais c'est ça qui est drôle. C'est qu'on... En fait, les contraintes, je crois qu'on se les crée beaucoup, nous, parce qu'on se dit qu'on va perdre nos clients, qu'ils ne vont pas accepter, qu'on va passer pour... on va passer pour une maman, tiens. Et en fait, quand vous leur dites, en leur disant c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, alors pas sur ce ton-là évidemment, hein, mais en disant ben voilà, je veux avoir une vie privée. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais je veux avoir une vie privée. S'il y a une urgence, je serai là, ne vous inquiétez pas, je répondrai tout de suite. Mais s'il n'y a pas d'urgence, ça peut attendre 20h, voire, allez, soyons dingues, ça peut attendre demain matin. Et en fait, je crois que... Alors, il faut dire aussi que je crois que c'est quelque chose... dans l'époque où on vit, je crois que c'est quelque chose qu'on est un peu plus prêt à entendre aussi. Et tant mieux. Voilà, ça fait partie des libertés que je me suis autorisée d'organiser aussi la journée autour de ma vie personnelle et pas le contraire.
Mais bon, ça marche.
Oui, j'avoue. Enfin, ça fait 3 ans. Ça marche très bien. En 3 ans, j'ai pas perdu un client parce qu'il me disait non, mais vous n'êtes pas assez dispo, vous n'êtes pas assez réactive. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Alors, après, peut-être qu'il y a des clients qui ne sont pas venus à moi parce que j'ai plus l'état d'esprit de.
Ouais, mais vous avez du coup les clients qui vous correspondent.
Absolument. Qui me ressemblent.
qui vous ressemblent, qui vous correspondent, et c'est la seule chose qui compte finalement.
Ah, je suis
pas
complètement d'accord.
Tous les clients.
Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et mes clients entendent ça très bien. Et je me dis, bah oui, un avocat, c'est aussi un être humain, et ils l'entendent et ils le comprennent. Et ça se passe vraiment sans aucune difficulté en ce qui me concerne. Après, je sais pas dans les autres témoignages que vous avez, les retours d'expérience qu'on peut avoir sur le sujet. Moi, je sais que ça se passe plutôt très bien.
Enfin, moi, des personnes que je rencontre, quand même, globalement, quand ils posent leurs conditions, ça se passe plutôt bien. Enfin, ils se rendent compte que ça se passe bien.
Mais oui, encore une fois, je crois qu'on fantasme beaucoup ce que les clients sont prêts à entendre. Parce qu'on a peur, évidemment. On a peur de perdre le client, on a peur de les fâcher, on a peur d'être perçu comme quelqu'un qui n'est pas assez engagé. Alors qu'en réalité, ils arrivent très bien à faire la différence sur des horaires qu'on a posés. Et puis, ils voient bien votre niveau d'engagement par ailleurs. Donc, ils sont tranquilles, finalement.
Alors, j'ai deux questions. Vous avez parlé de l'importance pour vous de transmettre. Vous m'avez été recommandée par un de vos anciens étudiants qui exerce maintenant à Hong Kong.
Donc, c'est
un auditeur international de Fleurs d'Avocat. Mais voilà, il m'a écrit rapport au podcast et il m'a parlé de vous et voilà. Donc c'est bien, je pense que manifestement vous transmettez quelque chose d'assez vif et vivant dans vos cours, et vous avez parlé de la collaboration, etc. Comment ça s'était passé pour vous de prendre un collaborateur, enfin...
Alors, comment ça s'était passé ? C'est tout simplement comme tout le monde au moment où, où on n'arrive plus à tout faire tout seul, et on se rend compte que ça n'est plus possible. Et surtout, moi, en fait, quand je me suis installée, j'étais assez ambitieuse sur le chiffre d'affaires que je voulais faire, la taille de cabinet que je voulais atteindre, etc. Et donc, je mettais tout en œuvre pour pouvoir le faire. Et donc, ça voulait dire avoir des collaborateurs. Et donc, je l'ai fait. Je crois, je me souviens plus la première, mais si, c'était déjà Place Vendôme, donc c'était quand même assez tôt dans mon développement. J'ai commencé par des stagiaires et j'ai adoré ça. Je me rappelle une de mes toutes premières stagiaires, mais une autre d'ailleurs qui est devenue ensuite une collaboratrice et qui est maintenant une amie. J'ai toujours gardé plutôt des bons rapports avec mes collaborateurs. D'ailleurs, j'ai eu que des collaboratrices. Et donc, assez tôt, je me suis dit, quand j'ai eu un collaborateur, que je voulais vraiment essayer qu'il y ait de la formation. C'est-à-dire un peu leur donner ce que moi, j'avais pas forcément eu de manière construite. Alors en fait, je me rends compte que c'est pas vrai, parce que mon maître de stage, quand même, elle m'a formée sur la rédaction, notamment, c'était très important pour elle. Via de la correction, beaucoup de correction. Après, sur le reste, j'étais toute seule. Donc, j'avais la collaboration pour moi. Je n'ai pas connu une collaboration où j'étais formée. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un peu comme pendant ce stage, à savoir beaucoup de corrections, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec à chaque fois les collaborateurs sur les dossiers. Et je leur expliquais tout de suite en disant... Mon cabinet, je voulais que ce soit un lieu très libre pour discuter. On pouvait se dire des choses parfois difficiles. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'avoir dit des choses très dures à une collaboratrice, Sophie, qui d'ailleurs avait fini en larmes et qui s'est révélée ensuite ma meilleure collaboratrice de tous les temps. Parce que, à l'époque, sur un de ses premiers dossiers, le travail, pour moi, n'était pas suffisamment de qualité. Et ce que je leur disais toujours, c'était on se parle, on se dit les choses. Peu importe ce qu'on se dit, mais je veux que vous vous sentiez libre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si je fais quelque chose qui ne va pas, et moi, de la même manière, si vous faites quelque chose qui ne va pas, je veux pouvoir vous le dire. Et du coup, ça a toujours donné des ambiances plutôt détendues. J'ai toujours voulu travailler dans la bonne humeur, quoi. Je voulais qu'il y ait de la joie. Parce que je leur disais toujours, on passe toutes nos journées ensemble, alors si en plus on se prend la tête, c'est l'horreur, quoi. Donc je voulais toujours qu'on se marre, et on s'est toujours plutôt marré, ce qui nous a jamais empêché de travailler beaucoup et de manière efficace. Mais voilà. Et donc j'essayais toujours de réfléchir sur comment on fait. J'avais construit un parcours du collaborateur.
Dès un bébé cabinet, c'est-à-dire êtes unipersonnel, vous construisez un parcours du collaborateur.
Absolument.
Enfin, il y a une vraie réflexion de développement.
Oui, parce que j'avais conscience que, un développement de cabinet sans un collaborateur à la fois épanoui. Alors, ça peut paraître, vous savez, un peu bien pensant, mais je disais à mes collaborateurs, je leur disais, mais j'essaie pas d'être gentille juste pour dire que je suis sympa. C'est pas ça. Je leur disais, je suis très pragmatique, à savoir si vous êtes bien. Pardon.
Si vous êtes bien
dans ce cabinet et que vous vous sentez bien avec moi, vous allez faire du bon travail, vous allez avoir envie de rester. Du coup, l'investissement en temps et donc en argent que j'ai passé à vous former, je vais le rentabiliser. Je leur disais toujours ça, je disais c'est très pragmatique, c'est très business ce que je fais. Ne pensez pas que c'est parce que je suis une personne sympa, c'est pas vrai.
Oui, et d'un autre côté, l'un peut aller avec l'autre.
Évidemment,
enfin,
j'espère que je suis sympa.
Un gros mot de...
Non, je suis d'accord, mais en fait, je dis ça parce que Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup on réfléchit beaucoup sur les relations dans le travail, etc. Et je pense que s'il y a effectivement une bonne ambiance, c'est plus efficace. Moi, j'y crois pas aux collaborations où on vous jette les trucs dans la tête, quoi. C'est horrible et c'est pas du tout efficace. Enfin, mais bon, je crois que c'est encore assez répandu. Et donc, oui, j'avais construit un parcours du collaborateur parce que un de mes grands trucs, c'était que je voulais que l'évaluation, enfin, je voulais montrer aux collaborateurs leur progression. Et en fait, je voulais qu'ils, parce que c'est souvent un sujet quand on est tout jeune avocat, si on a l'impression d'être nul et de rien savoir faire. Et du coup, je leur expliquais en disant, de toute façon, il faut 6 mois minimum. Les 6 premiers mois, ça sert à rien qu'on se prenne la tête. Ce sera évidemment, il y aura beaucoup de corrections, il y aura beaucoup de travail à refaire, c'est normal. Et en fait, le truc, c'est que je voulais leur dire que il suffisait pas que ce soit moi qui soit contente de leur boulot. Il fallait que eux se rendent compte de leur marge de progression. De manière objective. Parce que c'est ça qui est important en réalité, c'est le sentiment qu'on a par rapport à son propre travail. Les retours, si c'est un retour positif en disant ouais, mais par ailleurs elle est sympa, donc elle me dit que mon travail c'était bien, mais en réalité c'était pas vraiment bien. Et donc j'avais vraiment réfléchi sur comment ils allaient se rendre compte qu'ils avaient progressé. Et donc c'était très construit. Hein. J'avais mis plein de critères très objectifs sur les corrections. Alors c'était, je validais si par exemple ils me proposaient une position stratégique dans un dossier et que je la retenais, bah, ça voulait dire que c'était la bonne parce que j'allais pas prendre une position stratégique dans un dossier juste pour leur faire plaisir. Le volume de correction, je leur disais donc si vous allez bien voir dans le document Word, s'il y a 5 à 10% de correction, c'est que c'est bien rédigé. C'est après les 5 à 10%, je leur disais c'est juste mes mots à moi, mais ça veut dire que si j'ai gardé votre correction, c'est qu'elle est bonne. Et donc voilà, j'avais mis en place plein de critères pour qu'ils puissent se rendre compte de leur progression. Donc voilà, j'avais fait ça de manière complètement, enfin j'avais bricolé mon parcours du collaborateur parce que moi on m'en avait jamais fait un. Mais l'idée c'était de pouvoir les faire monter en compétence et qu'ils s'en rendent compte.
Et vos collaborations se sont bien passées ?
Toujours bien passées. Alors après, elles ont bougé parce que plein de parcours de vie différents. Hein. Sophie qui est partie vivre au Brésil pour devenir avocat au Brésil, maintenant qui est au Portugal, qui va revenir aujourd'hui à Strasbourg. Une autre qui voulait avoir une expérience dans un gros cab, évidemment, et qui est passée chez... Clifford, évidemment, je ne pouvais pas prétendre au même niveau de dossier, d'expérience. Alors après, bosser sur des dossiers complètement internationaux. Enfin, à chaque fois, il y a eu des raisons qui font que les collaborations se sont arrêtées. Mais ça s'est plutôt toujours bien passé. Mm. Enfin, j'espère. En tout cas, pour moi, oui.
Et l'enseignement, à côté de ça ?
Alors, l'enseignement, ça, c'était parce que j'adore, en fait. En fait, je me suis rendu compte que j'adore transmettre. J'avais vu passer, je ne sais plus comment je l'avais su, mais que ma fac d'origine, donc Assas, mettait en place la maison du droit. Je voulais pas enseigner le droit. Alors, enseigner le droit, pour moi, c'était ennuyeux au dernier degré. Un livre le fait très bien, quoi. On n'a pas besoin de moi pour apprendre le droit. Et surtout, j'ai aucune compétence pour ça. Et quand j'avais vu passer ce projet de la maison du droit, c'était l'équivalent des clinics, en fait, américaines. Et l'idée, c'était d'apprendre aux étudiants comment on gère un client, en fait. Et je me suis dit, ça, je peux leur apprendre. Ça, je peux contribuer. Ça, j'en sais quelque chose. Et du coup, j'avais postulé. Donc, j'avais rédigé une très jolie lettre de motivation pour Assas en expliquant que je pouvais intervenir sur ce projet. Donc, j'avais été retenue. J'étais fière comme pas possible parce que j'étais enseignante à Assas. Et donc, on a créé cette maison du droit. Je sais plus de quand ça date, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Et donc j'ai continué depuis. Et là aussi, l'idée c'était comment on gère un client. Alors c'était bête, hein, mais des fois je leur disais des trucs du style vous avez vu, il est rentré, vous n'avez pas dit bonjour, vous n'avez pas levé pour lui serrer la main. Enfin, c'est un truc qu'on fait hein, quand on reçoit un client. Et du coup, alors c'était très drôle parce que des fois ils prenaient des notes,
genre, se lever pour aller dire bonjour au client,
le raccompagner à la fin. Je trouvais ça très touchant quoi, parce que je leur disais ok. Et alors c'était très amusant parce qu'ils me disaient ok. Et alors les questions, donc quand vous avez un cas dans un clinique, c'est que donc vous recevez cette personne qui a un besoin juridique, une question, et elle revient 3 semaines après pour que vous lui proposiez une solution, que vous donniez des conseils. Et alors du coup, il me disait, oui, mais là, au premier rendez-vous, il va me demander que dit le droit. Et je lui dis, vous savez ? Il dit, non. Je lui dis, alors, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Et il me regardait, genre, je sais pas, dites-moi. Et je lui dis, qu'est-ce que vous diriez dans le cadre, je sais pas, vous avez déjà été en stage ? Et en fait, je l'ai laissé se débrouiller. Et je leur faisais après des espèces de débriefs. Alors je leur disais, attention, parce qu'à l'époque ça existait encore, aujourd'hui non, mais c'était un peu comme la Star Academy, quoi. Je leur disais, alors après on fait le débrief et je dis ce qui n'allait pas dans vos prestations. Et je m'amusais énormément, je trouvais ça très drôle. Et on y passait des heures, normalement on devait rester qu'une heure et on restait 3 heures à parler. En plus, devant tout le monde, parce que je leur proposais que les débriefs se fassent devant chacun, parce que parfois ils avaient un peu vu ce que faisaient les autres, et donc je leur disais, il y a toutes les personnalités évidemment de clients, je leur disais, bah là, le monsieur était hyper agressif, pourquoi vous l'avez pas un peu envoyé bouler? Alors la personne me disait, bah non, mais j'ai pas osé. Je dis, bah ouais, mais la prochaine fois osez, c'est vous l'avocat, c'est vous qui devez gérer l'entretien, c'est pas lui, enfin voilà. Et donc, des séries de conseils, c'était très intuitif, hein, parce que je suis pas enseignante, mais c'est une expérience que j'ai adorée, et les étudiants, j'avoue, étaient aussi contents, mais je pense qu'ils étaient très contents parce que, d'abord, c'était une des premières fois qu'ils recevaient des clients, donc qu'ils se confrontaient au métier d'avocat vraiment, donc très différent des enseignements classiques, académiques. Et surtout, je pense que parfois, alors je pense que je n'ai pas plu à tout le monde. Hein. Je pense que les étudiants qui avaient besoin, voilà, vous savez, de l'image de l'avocat, je leur disais, si vous attendez Harvey Specter, mauvais choix, c'est pas moi. Mais du coup, je pense que pour d'autres, c'était intéressant parce qu'ils se disaient, ah, on peut être avocat et être comme ça, en fait. Ah, on a le droit, en fait. On a le droit de dire ça, on a le droit de faire ça. Ah, c'est cool. Et du coup, ça a ouvert un horizon sur ces... comment on peut exercer son métier d'avocat. Donc, je pense que certains étudiants ont aimé d'avoir cet aperçu-là de ce que, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, j'espère que ça leur a plu.
Bah, manifestement, en tout cas, il y en a, c'est cool.
Bah, merci à lui s'il nous écoute.
Et puisqu'on parle d'enseignement, j'aimerais revenir à une question que j'avais au tout début, parce que vous aviez dit que voilà, pour vous, la fac de droit, ça vous faisait penser vraiment l'école républicaine, la méritocratie, que ça peut vous amener quelque part. Vous avez évoqué le fait que vous venez d'une famille plutôt modeste, etc. Est-ce que vous estimez que ça a joué le rôle que vous imaginiez?
Ah oui. Ouais. Ah oui, clairement. Oui. En tout cas, alors, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, hein. Je ne peux pas parler pour les plus jeunes, mais en tout cas, il y a 20 ans, c'était possible. Bah, je suis devenue avocat quand même. Je venais d'une famille où, mon père, il savait à peine lire et écrire, hein, pour dire les choses franchement. Mes grands-parents parlaient arabe, hein. Ils parlaient à peine le français. Donc, évidemment que ça l'a joué. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc intéressant. Avocat, on a un titre. Quand même. Et je me rends compte encore aujourd'hui, hein, dans ma vie personnelle, parce que voilà, je peux avoir une approche un peu cool, et puis les gens me demandent ce que je fais, je suis avocat. Oh, vous êtes avocat. Et en fait, ça me fait toujours rire, parce que maintenant, pour moi, mon métier d'avocat, ça y est, c'est un truc, ce passage-là, c'est fait. Et je me rends compte que ça a encore ce marqueur social-là. Alors, encore une fois, je ne sais pas si aujourd'hui, ça reste toujours simple de passer cette barrière sociale. En tout cas, pour moi, clairement, ça l'a fait, oui.
Vous n'avez pas eu l'impression que ça vous ait posé d'ailleurs des difficultés par la suite, auprès des clients et... des confrères?
Non. Alors, au début de ma carrière, j'avais toujours... parce que du coup, j'ai pas forcément fait les stages qui vont bien, parce que fallait que je travaille pendant mes études, fallait que je gagne ma vie. Donc moi, j'étais vendeuse chez Kukai, pendant toutes mes études, donc j'avais pas accès... et puis j'avais pas un réseau surtout, mes parents n'avaient pas des copains qui bossaient, je sais pas moi, chez Renault ou autre. Et donc parfois j'avais des petits complexes, en me disant, en rencontrant d'autres confrères, où clairement on voyait bien qu'il y avait une différence, soit de milieu, soit de parcours. Et en fait, j'ai assez rapidement réalisé que c'était ma chance. Parce que, en fait, du coup, ça me donne des clés de compréhension. Je considère qu'aujourd'hui, je peux m'adapter dans n'importe quel milieu. Ce qui n'est pas forcément le cas de personnes qui viennent de milieux privilégiés. J'ai eu des chefs d'entreprise qui parlaient à peine le français. Mais du coup, je comprenais leurs difficultés. Et du coup, je considère que c'était plutôt ma chance d'avoir pu bénéficier de cet ascenseur social-là qui me permet de comprendre d'autres milieux et maintenant qui me fait rire quand je suis plongée dans d'autres milieux très, un peu plus...
pensée.
Pour dire les choses gentiment. Je considère que je peux passer de l'un à l'autre sans trop de difficultés, ce qui n'est pas forcément le cas de gens qui viennent d'autres milieux.
Et vos projets pour les années à venir?
J'en ai pas.
J'en ai pas. Non. Le changement, l'adaptation au changement.
Exactement. Non, je ne sais pas du tout. Et vraiment, hein, alors qu'avant, je fonctionnais toujours... je fais des projets pour l'année. Je travaille toujours comme ça. Je fais toujours des projets pour l'année en me disant, qu'est-ce que je veux que cette année-là m'apporte. Maintenant, la vie m'a appris que je ne peux pas faire des plans à 5 ans, que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Des fois, je me dis que peut-être ce sera l'international, parce que j'ai développé, avec mon domaine de compétences, j'ai développé une activité internationale. Et je me dis, ça peut être pas mal d'aller vivre quelques années à l'étranger. Je ne sais pas. peut-être que je le ferai. Peut-être qu'un jour, ce sera reprendre des bureaux et puis me remettre à avoir une taille de cabinet que j'ai pas aujourd'hui, avec 3-4 collaborateurs, etc. Je sais pas. Je n'ai pas la moindre idée et je me dis que le moment venu, si j'en ai envie, je le ferai.
Et là, pour cette année? Parce qu'on est en... Enfin voilà, on est le 3 ou 4 septembre.
Ouais. Alors cette année, bah, en fait, j'avais l'année dernière dans les projets, c'était j'avais écrit un bouquin, donc je l'ai fait.
Félicitations.
Merci. Et cette année, c'était plus lié à mon domaine d'expertise parce que j'ai rajouté un domaine d'expertise en fait. Comme mes clients, en fait, assez naturellement, dans mon développement, se sont faits dans le domaine des nouvelles technologies. Je travaille beaucoup sur le domaine des données personnelles. Et donc cette année, donc là, je viens d'envoyer le document la semaine dernière. Donc c'était mon projet de cette année. C'était un rapport pour le Conseil de l'Europe sur le sujet de la reconnaissance faciale.
Enfin, voilà. Mais vous avez contacté le Conseil de l'Europe ?
Non. Alors en fait, je crois que la chance que j'ai... Vous savez, on parlait tout à l'heure de la chance d'évoluer dans les milieux et la liberté qu'on s'autorise. En fait, j'étais l'année dernière à une conférence donc dans mon domaine d'expertise et j'ai rencontré donc face à moi j'ai la personne qui s'occupe qui est la chef du service des données personnelles pour le Conseil de l'Europe, qui est une star hein, évidemment sur un plan international dans ce domaine d'expertise. Pour le grand public évidemment elle est inconnue, mais dans notre domaine elle est une star, et donc je vais la voir en lui disant waouh, vraiment j'adore,
je suis fan de vous.
Je suis tellement fan de vous, quoi. Et je lui dis ça comme ça. Et donc, ça l'a fait marrer, parce qu'elle se dit, c'est quoi cette avocate complètement farfelue? Et ensuite, je mets sur Twitter, en disant, j'ai rencontré Sophie Kwasny. Et je mets un truc de Beyoncé, quoi. Comme si j'avais rencontré Beyoncé. Ce qui l'a fait, encore une fois, beaucoup rire. Et en fait, je pensais que... voilà, vu sa position, je me suis dit que, voilà, j'allais passer pour quelqu'un d'un peu farfelu. Mais je m'en fichais, parce que j'attendais rien de cette rencontre, en fait.
Ouais.
J'avais pas d'idée préconçue.
Vous étiez juste heureuse de l'avoir
rencontrée. Voilà, j'étais juste heureuse de la rencontrer. J'étais heureuse de lui dire, parce qu'elle avait eu un impact dans ma vie professionnelle depuis quelques années, quoi. J'avais assisté à une de ses conférences des années auparavant et elle m'avait donné envie de me mettre dans cette matière, ce que j'avais fait. Et donc je lui ai dit, vous avez changé la vie, c'est génial, j'adore cette matière. Et du coup, on a échangé quelques fois dans l'année. On s'est revus ensuite à une autre conférence et elle m'a contactée un jour en me disant, mais dis-moi, est-ce que tu t'y connais dans cette matière-là, sur la reconnaissance faciale? Il se trouve que j'en faisais beaucoup pour certains clients. Et je lui dis oui. Elle me dit, ça t'intéresse d'être l'expert du Conseil de l'Europe? Je dis, oui, bien sûr. Tout à fait. Et donc, je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure depuis le début de l'année. Et c'est génial. Et je me dis, c'est voilà, parce que j'ai osé aller la voir et que si j'avais pas osé lui dire, tu tellement fan de vous, on n'aurait jamais vraiment discuté, on n'aurait pas discuté de ce que je faisais pour mes clients et mes dossiers, et j'aurais pas eu cette chance. Et donc là, je vais avoir normalement à la fin du mois mon rapport qui va être publié par le Conseil de l'Europe sur ce sujet. Enfin, c'est un truc, voilà, encore ouais. Une fois, de la même manière que pour le bouquin, c'était pareil, c'est une maison d'édition qui m'avait contactée, j'avais trouvé ça ahurissant. Parce que
de vos écrits
sur internet, ouais. Exactement.
Et alors moi, je ne compte plus le nombre d'invités sur Fleur d'Avocat qui disent il faut oser, parce que j'ai osé, nanana. Et donc, voilà, c'est déjà pris. Il faut oser est une citation
que on peut pas
déjà avoir. Prise que j'aimerais pouvoir utiliser à l'infini, tellement elle est citée par les invités du podcast. Mais c'est vrai que je le ressouligne parce
mais oui,
que vraiment.
Mais c'est la vérité. En fait, moi, en fait, il faut oser être soi. C'est surtout ça. Ça paraît tellement naïf de le dire comme ça, parce qu'effectivement, on le dit, on le ressasse, etc. Mais en fait, moi, c'est ça ma grande leçon. C'est que finalement, quand on est soi, bah, c'est pas si grave hein, ce qui se passe. Et voire même, c'est plutôt des trucs sympas qui arrivent. Quand on se détache de l'image, du rôle social, de la posture, etc., de ce qu'on attend de l'avocat. Moi, c'est ça pour moi qui a été décisif. C'est quand je me suis débarrassée de ça en me disant, tu sais quoi, je vais être cette avocate un peu farfelue, un peu, voilà, qui dit des trucs marrants, qui s'en fiche, et c'est pas si grave. Alors peut-être que des confrères vont écouter ça en disant, mais elle est complètement folle. Ben, c'est pas grave. c'est vraiment pas grave. Et au contraire, ce qui m'arrive, c'est plutôt des trucs sympas grâce à ça. Parce que d'autres vont se dire, ben voilà, un étudiant qui va me trouver plutôt marrante va parler de moi à quelqu'un qui fait un podcast, et j'ai la chance d'être interviewée, c'est une opportunité. Donc moi, je vis les choses plutôt comme ça maintenant.
Quelle est votre dernière joie ?
professionnelle, hein.
Comme vous voulez, c'est large. Non, mais c'est une question tout à fait ouverte.
Mais tiens, ma dernière joie, c'est notre entretien aujourd'hui. Parce que, alors, c'est un état d'esprit que je cultive beaucoup, hein. La gratitude, c'est très développement personnel, etc. Mais c'est un état d'esprit, en fait, je me rends compte que quand on essaye de se poser la question tous les jours de c'est quoi votre dernière joie. En fait, des joies, on en a tous les jours. Donc, la semaine dernière, c'était j'ai envoyé mon rapport. Aujourd'hui, j'ai une interview où je me suis autorisée à dire des choses très personnel et intime en me disant c'est pas grave, j'ai dit des choses très personnelles et intimes qui vont être diffusées sur le net qui peuvent être entendues par n'importe qui c'est plutôt sympa en fait. Donc on va dire que c'est ça ma dernière joie.
Merci de les avoir partagées. Et est-ce que vous avez une source d'inspiration?
C'est une bonne question, j'en ai plein des sources d'inspiration en fait.
Comme ça, qui vous traversent?
La littérature, moi, on va dire en premier lieu, la littérature, parce que ça fait écho tellement tout le temps.
Il y a un auteur en particulier qui vous tient à cœur?
En ce moment, c'est Joyce Carol Oates, sur le rapport à la féminité, que je trouve très intéressant, qui a été une vraie découverte sur ces dernières années, qui a notamment fait changer mon point de vue sur Marilyn Monroe, par exemple. Je recommande à tout le monde de lire Blonde, sur l'image qu'on dégage et ce qu'il peut y avoir derrière. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle écrit. En tant que femme, ça a fait écho en moi sur plein de choses.
Et que portez-vous sous votre robe?
J'ai plus beaucoup l'occasion de la mettre, ma robe, maintenant, parce que j'ai fait moins de contentieux. Mais maintenant, je m'autorise les jeans.
Très bien. Merci beaucoup, Sandra.
Merci à vous, Lila.